Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles. J'ai du temps pour discuter. Merci d'être là.
Ouais, c'est Jet Stop qui discute. Ouais, c'est Jet Stop qui discute.
Henry June Pilote. Mm-hmm. On se rencontre la première fois?
Oui, une première.
Sais-tu comment ça on se rencontre?
Pourquoi? Raconte-moi.
J'adore le podcast parce que je fais des rencontres vraiment cool, mais après ça, je suis pas témoin de l'écoute. Mm-hmm. Qui fait en sorte que des fois, je croise des gens par hasard, sans hey, j'aime vraiment ton podcast. Ou Et là, moi, je suis un gros fan du café à Montréal, le Croissant, mm-hmm. sur Mont-Royal.
OK, ouais.
Et tout le staff là-bas est vraiment gentil. Fait que j'arrive là, puis à un moment donné, une des baristas qui est vraiment fine, beau sourire, tu sais, comme « Hey, j'adore ton podcast, tu devrais recevoir June Pilote. » Et là, je te jure, elle m'a dit ça, j'ai fait « OK, attends deux secondes, je vais noter. » J'ai noté, t'as été au top de la liste, comme ma petite note d'invité. J'ai noté June Pilote. Puis je fais tellement confiance aux gens qui écoutent que je fais comme I guess qu'elle a raison.
Sens, oui.
Et là, j'ai checké. Puis là, j'étais comme ah mon Dieu, ben oui, j'ai déjà entendu parler. Fait que là, à un moment donné, j'ai dit à ma soeur, comme faut inviter June. And here we are.
Mais là, ça pèse bien mon ego, ça. Merci.
C'est quand même cool.
Oui, c'est le fun. Comme ça, les baristas, Montréal, j'adore.
T'as des fans. Pour les gens qui te connaissent pas, qu'est-ce que tu dirais que tu fais?
Ça, c'est une grande question, mais je dirais que j'ai plusieurs chapeaux, comme tout le monde, comme tous les milléniaux. On aime ça en porter plusieurs. Mais sinon, je suis à la direction générale d'un organisme communautaire LGBT.
Ouais, qui s'appelle Alter Hero.
Exactement.
Fucking bon nom, by the way.
C'est cute, hein?
C'est vraiment cute.
Puis dans le fond, le concept, c'est qu'on a des Alter Hero. C'est une équipe bénévole qui répond à faire des questions de jeunes en ligne. Donc, on reçoit environ une centaine de questions par mois. Où est-ce que les jeunes envoient les questions comme « J'ai vraiment peur d'être gay, qu'est-ce que je fais? » Je suis vraiment en amour avec mon prof d'histoire, comment je peux faire ma vie sans lui, tu comprends? Des choses comme ça. Puis nous, on y répond, donc les alter héros répondent aux questions des jeunes. Donc c'est ça.
Et là, avant d'être directeur général...
Qu'est-ce que je faisais?
Yeah.
C'est ça, mais avant d'être directeur général, j'ai travaillé en sex shop pendant longtemps.
Ouais?
Donc c'est comme ça que j'ai commencé mon Instagram, en fait. J'ai fait 3 ans au Sexcity sur la Plaza Saint-Hubert.
Ah ouais, non!
Oui!
C'est bien ça, c'est bien hot.
Des bonnes histoires, puis c'est ça. Puis comme, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que je travaillais en sex shop, puis je me rendais compte que les gens se connaissaient pas, en fait. Comme, connaissaient pas nécessairement les produits, savaient pas nécessairement comment s'orienter. Fait que j'ai commencé sur Instagram à faire des « Comment acheter ton premier dildo sans un? » Non, 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 non. Puis pendant ce temps-là, j'ai aussi commencé ma transition de genre, donc j'ai une personne transmasculine. Puis ça s'est comme tout entremêlé ensemble, où est-ce que je parlais de sextoy tout en parlant de ma transition. Fait que comme, c'est comme ça que ça s'est passé.
C'est beaucoup de stock, puis pour avoir checké tes trucs un peu aussi, tu le fais de manière tellement candide, très vulnérable aussi, tu partages beaucoup, mm-hmm. Donc je te trouve très généreux.
Merci.
Courageux aussi, tu sais, de faire ça sur les réseaux sociaux, j'aime pas tant ça dire que...
Je vais le prendre.
Yeah, tu sais, j'ai observé quand t'as fait A Day in the Life, ta série de stories, tu sais, je trouvais ça cool d'avoir accès à... Parce que c'est ça que je trouve le plus... qui me brise le plus le cœur, en fait, quand mm-hmm. je rencontre des personnes trans, c'est de savoir à quel point mon identité mm-hmm. M'a jamais... J'y pense jamais autant que vous autres.
Mm-hmm. Oui, l'impact que ça a sur la vie au quotidien.
C'est ça.
Ouais, ouais.
C'est ça. Et toi, ben aller à la salle de bain...
Ouais.
C'est une source de stress, c'est une source d'anxiété, tu sais. Ouais. Et pas, tu sais, fait que c'est ça que. Puis je suis content qu'on parle de ça aujourd'hui, puis je suis content qu'on s'en parle. Puis à n'importe quel moment, si jamais je pose une question qui est déplacée ou qui est mal wordée,
je vais pas me gêner.
Gêne-toi pas de me reprendre, sincèrement, je trouve ça vraiment important. Puis je te remercie de prendre le temps de m'en parler parce que aussi, j'essaie de m'éduquer là-dessus de mon mmh. côté mmh. Et de pas t'offrir ce fardeau-là de m'éduquer moi. Mais,
c'est gentil, mais je suis vraiment confortable de reprendre. De toute façon, je pense que c'est bien des fois de faire des erreurs puis d'apprendre à se faire reprendre. Puis d'apprendre, je pense que dans se faire reprendre, c'est là qu'on apprend le plus vite, en fait. Là.
Mais tu vois, le pire, c'est que quand ma couverture du Québec est sortie, mmh. je trouve que ta critique, quand je vais mettre mmh. le mot critique en gros guillemets, était... Je me souviens la lire et faire « Ah, c'est ma préférée.
»
parce que t'as pris le temps de me féliciter, l'équipe et moi, et d'exprimer ce que t'aurais souhaité qu'il y ait de plus. C'est-à-dire un coup de chapeau, une célébration, de dire « Hey, faut célébrer les membres de la communauté LGBTQ+, qui ont fêté pour que tu puisses t'exprimer ainsi avant toi. » Et c'est ça qui me manquait. Puis je trouvais que c'était vraiment dans un souci de bienveillance puis d'éducation. Fait que je t'ai trouvé très généreux, encore une fois, à ce moment-là.
Merci beaucoup. Mais c'est vrai que je pense que il faut célébrer, en fait, que justement, quand un homme cis comme toi soit capable de jouer avec sa présentation de genre, soit capable de comme sortir un peu des carcans de masculinité plus toxiques, sévères. Puis je pense que c'est quelque chose à célébrer, en fait. Mais je pense aussi qu'il faut célébrer, justement, les raisons pour lesquelles on est capable de se rendre là. Comme on parlait un peu plus tôt de comment j'essaie d'être vulnérable sur ma plateforme, mais je dirais que la raison pour laquelle j'essaie d'être vulnérable, c'est beaucoup parce que ça n'existe pas, la représentation au Québec francophone d'identité trans, dans le sens où les premières fois que j'ai entendu parler des personnes trans, comme je pense que j'avais 20 ans, ou comme la vraie première fois, j'étais en congé, d'accord, en pédagogique chez moi, et je zappais à la télévision, puis je suis tombé sur Canal, c'est quoi déjà, Canal 5? Les Français, là.
TV5.
C'est ça, TV5, je suis tombé sur TV5, puis il y avait une espèce de documentaire sur un homme trans. Mais c'était vraiment... c'était stressant, c'était... dans le fond, le parcours de cet homme-là qui perdait tout son support, puis ses amis, puis sa famille. Tu comprends?
Non!
C'était très dramatique. Là. C'était très, c'était pas positif. C'était pas comme... hey, finalement, peut-être que je voudrais être ça. Tu comprends?
Ouais.
Fait que je me souviens de ce moment-là, puis je me souviens d'avoir mis dans mon cerveau, dans le backroom de mon cerveau, puis de comme quand j'ai commencé à accepter ma transidentité, d'être comme, ben, peut-être que j'aurais réussi à le faire avant s'il y avait eu des exemples quand j'étais jeune, et non pas juste l'idée que si t'es trans... tu vas plus avoir de relations amoureuses. Tes parents t'aimeront plus. Tu comprends tout ça?
Ouais.
Donc, j'essaye vraiment du haut de comme qu'est-ce que je peux faire, d'être une représentation positive pour des jeunes Québécois, Québécoises, gens trans, parce que ça n'existe pas.
c'est fou que ça n'existe pas. Dans le sens, c'est fou. Des fois, je suis comme... j'ai envie qu'on soit rendu plus loin. Mm-hmm. T'sais? Fait que je peux pas m'imaginer, toi, comment tu te sens. T'sais, est-ce que... je te trouve candide dans tout ça, tu sais, t'as pas l'air en colère, mais j'imagine que justement, t'aurais souhaité te reconnaître à la télé, dans les médias, beaucoup plus tôt, puis encore à ce jour.
Bien sûr. Oui, puis je pense que comme récemment, j'ai un podcast moi aussi, puis je réfléchissais à des...
Rappelle-moi le titre.
C'est quoi mon genre?
C'est quoi mon genre?
Ouais.
J'adore.
Une petite blague. Hein?
That's it.
Puis, ouais, c'est ça. Je pense que je réfléchissais à des thèmes. Puis, un thème que j'ai ressorti, c'était la solitude. Puis, c'est un truc que j'ai parlé avec des amis, des personnes autant queer, gay, lesbienne que trans, non-binaire, sur comme un truc commun qu'on a ensemble. C'est beaucoup le sentiment de solitude dans l'adolescence, puis dans l'enfance. Parce qu'il y a tellement personnes à qui on peut s'associer ou comme. S'imaginer quand on va être grand, quand on va être grande. Fait que comme, j'ai vraiment envie de comme, plonger un peu plus dans cette solitude-là. Puis je pense que dans les médias, au cinéma, dans les journaux, dans la musique, c'est... puis je veux dire, tout le monde vit de la solitude à l'adolescence. Là. C'est vraiment un moment comme pas le fun de notre vie.
Ouais.
Puis comme, on sait tous que quelque chose qui va venir vraiment nous faire sentir bien, c'est écouter de la musique, regarder la télévision, s'associer à des vedettes, des choses comme ça. Puis que ça fait que tu te sens moins seul.
Mm-hmm.
Fait que j'ai vraiment l'impression que la représentation dans les médias, c'est comme une première petite étape pour que ces jeunes-là trans se sentent moins seuls, puis se sentent plus représentés, puis juste puissent, je sais pas, écouter de la musique d'une personne trans, puis se sentir qu'ils peuvent faire ça plus tard.
Yeah. Fait que, exact. C'est fou comment c'est important dans la vie de se voir, de pouvoir rêver, tu sais. Puis pour moi, c'est. C'est supposé être un souhait général, généralisé de tous dans notre société, de faire « Hey, on veut que nos jeunes rêvent. On veut que nos jeunes puissent rêver. Fait que donnons-leur les outils. »
C'est vrai.
Ton rapport à la solitude, comment il est aujourd'hui?
Ben, il est intéressant, dans le sens où est-ce que je dirais que de vivre cette solitude-là, puis de après, c'est une question intéressante, félicitations. De faire un coming out puis de se sentir comme faire partie d'une communauté, mais une communauté avec plein de gens qui se sentent seuls aussi. C'est vrai que mon rapport à la solitude est constamment en train d'évoluer parce que c'est autant par rapport à mon identité de genre que mon orientation sexuelle. Si je pense à les premières fois que j'étais allée à des parades, à des événements dans des bars, puis que je voyais des gens qui me ressemblaient, puis que je comprenais pas trop, puis que je me sentais de moins en moins seule.
Te souviens-tu la première fois?
Ben oui, je pense que oui. Je pense que la première fois, c'était aux catacombes.
Yes! Fait des shows, là.
Feu catacombe.
Yeah.
Puis.
Coin Saint-Laurent, Ontario.
C'est ça. Ouais, yeah. Ouais. La grosse. Puis c'était comme une soirée. Je pense que c'était Faggoty Ass Friday.
Quoi?
C'était bon. Un excellent nom.
Oui!
Shout out. Je me souviens d'être là, puis de comme pas comprendre, d'être vraiment gêné dans ma bulle, d'aller à la salle de bain, de voir juste, attendre à la salle de bain, puis je vois juste quatre jambes dans chaque star. Puis je suis juste comme, ah, mais on va les laisser avoir des rapports sexuels pendant que moi j'ai envie de pisser. Je me souviens juste d'être vraiment comme, je me sentais comme un enfant, là, comme un ado. Puis j'étais juste là, genre, ah, oh, c'est vraiment gênant, mais en même temps, je me sens entouré, comme, il y a quelque chose d'étrange, là. Puis. Non, c'est ça, je pense que c'est la solitude, c'est vraiment compliqué aussi en lien avec l'identité trans, dans le sens où est-ce que un truc spécial, ben spécial, pas le fun, pas agréable, mais spécial aussi avec l'identité trans, c'est que tu te reconnais pas, puis comme tu réalises que tu te reconnais pas quand tu commences une transition. Comme c'est comme ça que moi je l'ai vécu.
Toi par rapport à toi.
Exactement.
Toi dans le miroir.
Oui, c'est ça. Dans le sens, je pense que je l'avais jamais autant matérialisé que quand j'ai commencé à me reconnaître. Puis, je pense...
Attends, là, je
vas-y, vas-y, vas-y.
Comprendre, c'est que c'est quand même quelque chose où ce que on dirait que tu t'es... Est-ce que, quand tu dis te reconnaître, est-ce qu'on dirait que tu t'es vu pour la première fois?
Un peu ça, oui. Puis un peu aussi... Je pense que pour moi, ça au lieu d'être me reconnaître pour la première fois, ça a plus être me rendre compte que ça fait des années que je me reconnais pas. Je pense que c'est plus comme ça que j'ai vécu. Dans le sens... comme ça fait, moi, ça va faire 2 ans que je suis sur la testostérone, comme j'ai eu ma double mastectomie il y a 2 ans. Puis de comme voir mon corps pour la première fois, c'était comme émouvant, mais aussi j'étais triste pour comme la personne que j'étais qui a développé des dizaines et des dizaines de mécanismes pour pas me voir, en fait. Puis comme ça m'a fait réaliser plein de choses de comme, quand je me regardais dans le miroir, qu'est-ce que je voyais, qu'est-ce que je voulais, comme c'est vraiment un... Puis je pense que la raison pour laquelle je fais ça, c'est pour faire un petit segue, parce que c'est une solitude aussi avec soi-même, genre.
Ouais.
L'espèce de comme pas se reconnaître en soi, ne pas savoir qu'est-ce que, ne pas aimer ce que tu projettes au monde entier, puis de comme c'est vraiment un truc que je, disons que moi ça fait peut-être 6-7 mois que je commence de plus en plus à me sentir bien en moi, genre, fait que c'est vraiment nouveau, puis c'est vraiment comme ouf, genre déstabilisant.
Oui, c'est sûr.
Ouais.
Il y a beaucoup de stock, là, tu sais, beaucoup de travail. De travail que personne ne peut faire d'autre que toi.
Exactement, oui.
Puis c'est un travail d'amour propre en période de changement. On dirait que je peux juste imaginer qu'il y a quelque chose de libérateur, mais il y a aussi beaucoup de deuil.
Mais c'est ça, c'est que je pense que c'est. On parle souvent du coming out comme une fin en soi. Quand moi, je le vois plus comme un début. Parce qu'il y a une espèce de discours où est-ce que quand tu fais ton coming out, là, tu peux commencer à vivre pour vrai. Tu comprends? Mais moi, je préfère le voir un peu comme inviter les gens dans qu'est-ce que tu as toujours été.
Ouais.
Puis vraiment aussi, c'est le début d'un deuil de comme tout qu'est-ce que tu n'as pas pu vivre. Ou comme qu'est-ce que tu aurais voulu vivre, en fait.
Ouais.
Genre, moi j'ai fait mon coming out, mais dans le fond, je suis une personne transmasculine, je suis bisexuelle, mais j'ai fait mon coming out lesbien en premier, à 22 ans. Puis je me souviens du sentiment de comme. De me sentir powerful d'avoir fait ça, d'être comme fier de moi, mais aussi de comme avoir le deuil d'une adolescence, genre, que j'aurais pu avoir. Ou comme quand j'ai commencé ma transition de genre, je me disais souvent, ben là, June, comment ça aurait été de faire ça quand t'avais 12, 13 ans? Dans le sens que ces sentiments-là ont toujours existé. Si t'avais eu accès à ça, comment aurait été ta vie? Comment ça aurait changé ta vie, en fait? Puis je veux dire, je suis content de tout. Je veux dire, j'ai pas de regrets, mais c'est intéressant de comme réfléchir dans une vie parallèle où est-ce que, disons que j'étais né en 99, tu comprends, ou en 2000. Je veux dire, je rencontre plein de jeunes trans maintenant qui ont 16 ans, 17 ans, qui commencent les hormones, puis comme qui vivent cette vie-là, puis moi, je l'ai vécu comme à 27 ans. Puis comme... C'est intéressant de comme penser à ça. Puis...
Ouais. T'es en train d'être le modèle que t'aurais souhaité avoir.
Un peu, oui.
ce qui est très, encore une fois, généreux. C'est quand comment ça fonctionne les hormones. Est-ce que t'es parce qu'évidemment il y a le côté scientifique là, je veux dire là, ou biologique, mais il y a le côté aussi psychologique. Est-ce que t'es accompagné?
Mais dans le fond, juste un petit, il y a trois types de transitions. Transition légale, médicale, sociale, je vais l'avoir. Okay. Et dans le fond, chaque personne trans n'est pas obligée de faire toutes ces transitions-là.
Ouais.
La transition sociale, c'est vraiment quand tu réalises que tu es trans, non-binaire, puis que tu te présentes au monde autrement.
Comment ça... on va y aller par étapes, mais ça, comment ça. Tu l'as vécu?
Comment j'ai vécu ça? Moi, personnellement... je suis quelqu'un qui prend beaucoup son temps quand que... Genre, je me souviens d'avoir fait mon coming out lesbien pour la première fois. Puis d'avoir eu l'impression d'ouvrir une petite boîte, là, puis que ça doit tout sortir, parce que je suis quelqu'un qui compartimentalise un petit peu mes émotions.
Ouais.
C'est pas positif, c'est pas négatif. Ma psy me dirait peut-être qu'il faut que j'y zoome un peu plus. Mais d'avoir ouvert cette première boîte d'orientation sexuelle en sachant très bien que la boîte d'identité de genre existe. Mais en sachant très bien aussi que je peux pas ouvrir les deux en même temps parce que... Je vais pas avoir de fun. Ouais. Alors, je me souviens de comme me dire « Hey, tu vas vivre ta vie de Gwyn au max, là. » Fait que genre... Parce que je savais que ça allait finir à un moment donné. Fait que genre, je me suis vraiment permis de vivre ça comme le plus intensément possible que je pouvais pendant ces années-là. Puis quand ça m'a repris, la dysphorie de genre, qu'est-ce que c'est la dysphorie de genre? C'est ne pas se sentir dysphorique par rapport à son genre. Donc, de pas comme... Ils sont bien jamais expliqué ça comme ça.
De pas te sentir aligné,
j'ai ouais, de pas te sentir aligné avec le genre qui t'a été assigné à la naissance.
Ouais.
Mais c'est aussi un sentiment du genre comme de pas aimer ses seins, de pas aimer comme c'est de il y a de la haine de soi aussi là qui rentre là-dedans.
C'est intense.
Oui. Puis c'est ça, je me souviens d'avoir comme fait fi un peu de cette boîte là pour profiter d'une autre boîte, mais plus comme décortiquer une autre boîte. Puis quand j'ai commencé à ouvrir ma boîte d'identité de genre, là, j'étais comme, OK, il va falloir qu'on recommence tout ça. Genre...
Mais ça doit être aussi, j'ai l'impression que c'est ça doit être normal aussi de prendre son temps, surtout que quand t'as pas eu d'exemple.
Exactement.
Que tout ça est nouveau, c'est des sentiments aussi qui doivent être durs à comprendre. Faire, attends, j'ai-tu de la peine de trucs extérieurs à ma vie? Pourquoi je me sens comme ça? Je me sens-tu comme... Il doit y avoir beaucoup de confusion.
Énormément, oui. Puis comme aussi beaucoup de... Je dirais... beaucoup de comme pourquoi je l'ai pas fait avant. Est-ce que c'est vrai? Aussi, il y a beaucoup de... Autant de... Je parle souvent de transphobie internalisée. Puis aussi comme de tout contexte, en fait, d'oppression comme d'homophobie internalisée. Dans le sens où est-ce que quand on fait son coming out, c'est coming out... La première personne avec qui on doit déconstruire tout ça, c'est soi-même. Donc, je veux dire, moi, je me souviens quand j'étais en sixième année d'écouter All the Things She Said de Tattoo puis de vraiment capoter, genre, négativement, tu comprends?
Ah ouais?
Dans le sens de l'écouter puis d'être comme... Ou genre, comme plein de...
Parce que... Pourquoi?
Parce que j'étais comme... C'est dégueulasse, genre. Tu comprends? De comme, ouais. D'avoir beaucoup de... C'est ça que je veux dire par internaliser, c'est comme... Comme on vit tous beaucoup de transphobie puis d'homophobie, mais là... L'homophobie que moi j'ai plus vécue, c'est la mienne qui avait été apprise par la société.
Ouais, c'est ça.
Donc, de comme. Je me souviens quand j'essayais de faire mon. Ben, quand j'essayais de faire mes coming out, d'être comme. Tu peux pas faire ça, tu peux ruiner ta vie, genre. Ou comme, tu pourras jamais être une personne successful, genre. Tu comprends tout ça.
Oh my God.
Puis comme, c'est pour ça qu'on dit souvent que le premier coming out, c'est le coming out à soi-même, genre.
Mais oui.
Parce que comme c'est. Puis j'imagine juste comme. Je veux dire. Juste toi, genre, de te dire, ah, oh, j'ai peut-être commencé à faire du vernis à mettre du vernis à ongles, genre. Juste ça, c'est clair que c'est un petit moment, genre, de comme, oh, est-ce que je veux vraiment faire ça? Genre, qu'est-ce que ça indique, genre?
Yeah, mais c'est. Je pense que c'était beaucoup plus facile.
Mais c'est pas la même chose.
C'est pas
la même chose du tout.
C'est ça, tu sais.
Mais je pense que c'est un résultat. Dans le sens où est-ce que. Je pense que c'est loin d'être la même chose, mais c'est. C'est dans la même famille,
ouais,
dans le sens
ouais.
que la raison pour laquelle moi, j'ai eu la difficulté à accepter que j'étais un homme trans, ben c'est la même société qui fait que les jeunes garçons cis peuvent pas porter du rose, tu comprends?
Ouais, je comprends.
Genre, c'est la même réalité, c'est le même... C'est juste différent.
Ouais. Donc ça, c'est la partie sociale.
Ouais, c'est ça. Sociale,
ça commence toi par rapport à toi.
Toi par rapport à toi, de te présenter au monde, de dire, moi, mes pronoms, c'est « il ». mon nom c'est June, de comme changer de façon sociale avec ton cercle d'amis. Tu peux décider de dire à certaines personnes, pas à d'autres personnes. Tu comprends, c'est vraiment au niveau
encore,
social.
Encore une fois,
vas-y.
Il doit tellement, comme, j'ai tellement d'empathie. Si ça, ne serait-ce que, mettons, t'es avec une soirée avec un ami ou une amie à qui tu t'es comme, hey, moi c'est June, je suis un garçon, mm-hmm. puis t'es reçu, puis vous marchez, puis tu croises quelqu'un à qui tu l'as pas. Tu sais, il y a tout le temps du stress.
Il y a beaucoup, beaucoup de stress. Ouais, ouais.
Fuck!
C'est genre. Puis je dirais que ça, c'est un truc que les médias sociaux ont été le fun pour les plus jeunes, de juste pouvoir le dire puis que ça sorte d'un coup.
Yeah.
Mais c'est un plus des médias sociaux. On trouve souvent
Des négatifs.
Des négatifs.
Ouais.
Moi, je trouve qu'il y a des positifs, comme la représentation.
Ouais.
Comme ouais. Justement, pour faire son coming out d'un coup puis que autant ma tante Gertrude que ton ami à l'école puisse le voir.
Ouais.
Mais ouais, c'est ça, beaucoup d'appréhension. Puis aussi, il y a des parce que moi, comment j'ai vécu ma transition, comment on rentrait dans un autre type de transition, la transition médicale. Ouais. Donc, transition médicale, ça, c'est quand une personne trans décide qu'elle veut, dans le fond, avoir recours à des méthodes médicales pour changer son corps, peu importe. Donc, chaque personne trans décide de quelle manière que ça soit fait. Moi, je savais dès le début que je voulais avoir, comme me faire enlever les seins, donc avoir une double mastectomie. Puis j'ai aussi commencé les hormones entre-temps. Puis, donc la testostérone.
C'est beaucoup de stock quand même.
Puis c'est beaucoup de stock aussi. Je pense que le plus difficile pour moi, puis pour beaucoup de personnes, c'est de naviguer ça. Parce que c'est je veux dire, on est au Québec, tu te brises le bras, ça va être difficile de naviguer. Mais genre, comme quand tu vas avoir accès à des hormones, c'est comme, tu dois passer à travers plusieurs cerceaux. Plusieurs comme les lois ont beaucoup changé, mais on est rendu à un moment où est-ce que il faut quand même que tu prouves à un docteur d'une certaine manière que t'es assez valide pour pouvoir avoir accès à des hormones.
Ouais.
Donc tout ça, l'espèce
assez
de,
valide,
mais pas valide, mais comme il y a comme un
ils veulent être certains que toi t'es certain,
c'est ça. Genre, disons que
qui doit être un processus assez comme éprouvant.
Peu agréable. Disons, par exemple, pour avoir accès à la double mastectomie, il faut se faire diagnostiquer avec un trouble de genre. Dans le fond, il faut que tu ailles voir un psychologue ou une sexologue ou un travailleur social qui va faire des séances avec toi puis qui va s'assurer que t'es assez dysphorie pour avoir une chirurgie. Tu comprends?
Est-ce que recevoir un diagnostic, c'est-tu weird?
Mais c'est très weird parce que c'est un truc auquel je réfléchis beaucoup, puis que j'imagine beaucoup de personnes trans réfléchissent, c'est que si je compare avec, par exemple, comment les personnes homosexuelles comme aussi avaient un diagnostic, ne serait-ce que dans les années 80, mais comme, qu'est-ce qui est étrange avec les personnes trans, c'est qu'on ne veut plus être diagnostiqué, on ne veut plus être médicalisé dans notre identité, mais en même temps, pour avoir accès à ce qu'on veut, il faut qu'on fonctionne dans le milieu médical. Donc moi, personnellement, comment je le vis, j'essaie de voir tout ça comme des outils, dans le sens que je joue un personnage. Donc, disons que je vais au médecin, je vais avoir accès à des trucs, je vais jouer comme... Puis j'ai accès à ça, comme je suis capable de le faire. Mais comme je vais... Pour avoir accès à des médecins, je vais pousser, je vais dire « Ah, oh, je me suis toujours senti garçon. » Non. C'est peut-être pas vrai à 100%, mais je sais que c'est ça qu'ils veulent entendre.
Ouais.
Puis comme... C'est beaucoup de navigation. Puis aussi, disons qu'une personne a un passé de santé mentale ou comme a... disons, une personne qui est schizophrène ou comme qui est bipolaire ou des trucs comme ça, va avoir plus de difficultés à se faire prescrire des hormones parce que les médecins vont dire que cette personne ne peut pas nécessairement savoir. Fait que c'est plein de choses, là, vraiment compliquées. Puis ça bouge.
C'est... Il y a une partie de moi qui peut comprendre,
ouais.
Mais une autre partie de moi qui fait... C'est tellement particulier de convaincre à l'humanité qui tu es.
Constamment, oui.
Constamment?
Oui. Je pense que c'est ça la plus grosse lourdeur, en fait, d'être une personne trans dans la société. C'est beaucoup plus la chose qui fait vivre le plus d'intensité ou de doute, c'est plus le regard des autres que le regard qu'on a sur soi-même.
Ouais.
Comme avant que je prenne des hormones, avant que je commence, que j'ai une chirurgie, ben... J'avais plus l'impression de devoir toujours gager comment les gens me percevaient. De comme, est-ce que, comme, d'aller au restaurant, comme, OK, qu'est-ce que cette personne-là voit? Qu'est-ce que cette personne-là pense? et de même pas parce que j'ai on n'a pas toujours l'énergie d'être comme non moi je veux que tu dises que je suis un garçon, tu comprends, genre c'est fait comme je me souviens très bien d'être comme cette personne, genre essayer de prévoir qu'est-ce que cette personne va dire puis d'aller avec ce jeu là puis comme plein de c'est beaucoup d'énergie mentale.
Ouais, vraiment.
Mais puis je dirais que toutes ces choses là comme je parlais plus tôt, comme faire un loop, genre ça fait comme seulement quelques mois que je me sens que les gens commencent à reconnaître comment je me sens puis que je réalise tous ces mécanismes là, tu comprends, dans le sens où est-ce que maintenant 70% du temps les gens vont dire ils quand ils vont parler à moi, mais comme avant c'était pas ça. Mm-hmm. Fait que maintenant je me rends compte que comme hey fuck, genre pendant toutes ces années là avant, est-ce que j'étais vraiment moi, est-ce que j'étais qu'est-ce que les gens voulaient, que quand il y a comme des
c'est beaucoup de questionnements, hein?
Ouais.
C'est est-ce que tu penses que ça l'a grandi ton empathie, mm-hmm, mais aussi t'es un peu ta défense, ta peur?
Oui, 100%.
Les deux, dans le fond.
Oui, je pense que parallèlement, je suis une personne qui est empathique, mais je suis aussi une personne qui est gardée, puis comme crée, qui calcule beaucoup les choses. Parce que veux pas. Pis ça, je pense que c'est un truc qu'on a en commun avec la plupart des personnes marginalisées, là, comme qui sortent du moule mm-hmm, inscrit, genre de comme constamment devoir gauger comment ça va se passer, genre comment la vie va se dérouler.
Ouais.
Mais.
Puis ça doit être particulier aussi de défaire des mécanismes de défense, mm-hmm, qui t'ont aidé,
mm-hmm, exactement,
ouais, avec le temps. C'est ça qui est particulier.
Oui. Je pense que c'est là que le deuil est, dans le sens où est-ce que. Être triste pour cette personne-là. Genre, c'est vraiment triste de se rendre compte que je faisais un truc avant. Je pense juste au restaurant, de toujours devoir prévoir. Mais comme j'ai un deuil pour cette personne-là, je suis comme pauvre petit Jules, là, qui faisait tout le temps ça.
Puis là, oui.
Fait que je suis comme.
Puis ça, c'est émouvant, avoir d'empathie, ouais, pour soi.
C'est étrange.
Ça, ouais, fait comme de la. C'est émouvant d'une autre manière.
Ouais.
Ça m'est pas arrivé souvent.
Ouais.
Mais je me souviens d'une fois où un de mes amis m'a dit comme, tu sais, on sortait une passe un peu plus tough, puis il était comme, mm-hmm, hey, tu sais, Jay, tu peux plus retourner, tu peux plus. J'ai pas aimé, mm-hmm, te voir comme ça, puis tu peux plus retourner comme ça. Ça m'avait tellement ému, parce que la première fois, j'avais de l'empathie pour, comme moi avant, mm-hmm, je peux pas m'imaginer l'intensité avec laquelle toi c'était. Mm-hmm. Tu sais, moi, c'était un événement isolé. Mm-hmm. Toi, c'était une manière de vivre.
Mm-hmm. C'est épuisant. Ouais.
Mais hein?
Puis si je continue avec.
Yeah. Alex, es-tu game de fermer la clim, s'il te plaît? Oui. Bon, c'est frais quand même.
C'est frais.
Hein? Colin, j'ai installé une clim maintenant, mais finalement, elle marche trop bien.
Elle marche trop bien. La qualité.
Ouais.
Mais.
Merci, Alex. Fait que là, on était dans la transition médicale.
C'est ça.
Yeah.
Donc, la transition médicale. Dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que tu fais prescrire des hormones. Comme moi, j'étais assignée femme à la naissance. Donc, je prends des hormones qui vont venir contrebalancer. Donc, je prends la testostérone.
Et ça, tu la prends en te piquant?
En injection subcutanée. C'est un peu comme les gens qui prennent... les personnes qui sont... c'est quoi le mot?
Diabétique?
Wow.
Ouais.
T'es comme dans mon cerveau.
Yeah, absolument. Ouais,
c'est comme les personnes diabétiques. Dans le fond, c'est une petite piqûre par semaine.
Okay.
C'est un truc que tu dois faire toute ta vie, en fait. Ouais. Fait que c'est... Puis les changements sont très, très, très graduels.
Est-ce que ça, c'est... quand tu débutes la testostérone, ouais, j'imagine que... Ben, corrige-moi si je me trompe, mais y a-tu une excitation, mais mm-hmm, une espèce de presse aussi?
Oui, mais il y a comme un... dans le sens où est-ce que... moi, j'avais vraiment peur, parce que comme les personnes trans, on va pas se le cacher, on est un peu comme un petit peu cobaye médical. Dans le sens que les recherches... sur les effets de la testostérone puis des estrogènes à long terme sur les personnes trans est pas si répertorié que ça, mais puis j'ai vraiment la chance d'avoir une équipe médicale avec qui j'ai confiance, mais j'avais beaucoup d'appréhension par rapport à ça, l'espèce de peur de comme devoir m'injecter quelque chose toute ma vie, mais aussi de savoir que je peux arrêter quand je veux, comme beaucoup de, puis j'ai attendu longtemps, comme moi j'ai attendu 9 mois avant de commencer, j'ai eu ma prescription puis j'ai attendu 9 mois avant d'aller chercher ma première dose parce que j'étais comme
mais oui.
Mais, je pense qu'il y a quelque chose de. T'es excité, t'as envie, t'as hâte de commencer. mais c'est pas ta première dose qui va faire que tu vas te réveiller avec une barbe. Genre, bien au contraire, en fait. Là. Puis c'est très doux.
C'est quoi les premiers changements que tu as sentis?
Les premiers changements, c'est l'odeur corporelle.
Ah ouais?
C'est poche. Hein.
Mais ah ouais?
Ouais, comme tu te réveilles, puis tout à coup, ton urine sent bizarre.
Ah ouais?
Ouais.
Est-ce que tu étais heureux?
Mais disons que j'étais pas si enthousiaste que mon urine sentait.
Mais de voir qu'il y a des changements.
Ouais, c'est fou. Je dirais que c'est ça l'urine. Sinon, un autre truc, c'est comme quand tu prends des hormones, ton clitoris va grossir beaucoup.
OK.
Fait qu'il va comme quadrupler en 16. Hein.
Ça, ça t'a-tu inquiété?
J'ai adoré ça. C'était le fun. Ouais. Ça. C'est fun. Ouais.
Oui.
C'est un changement plus. C'est mieux que tes odeurs corporelles.
Mais oui, absolument.
Puis c'est ça, c'est très doux après, dans le sens où est-ce que les premiers mois, ça va être odeur corporelle, ta voix descend de plus en plus. Comme moi, j'ai eu la chance de... Ça a descendu très vite. Mais comme il y a des gens que ça peut prendre des années avant que leur voix descende.
Ouais.
Puis, par exemple, t'as une pomme dedans qui pousse, là.
Ah ouais?
Ouais.
Ça pousse?
Ça pousse. Ça.
Wow! Ouais. Je savais pas.
C'est drôle, là.
Ouais.
Puis c'est comme... comment ça filme environ, c'est que... Pendant un temps, les gens pensent que t'as un rhume, puis là, tout à coup, t'as un rhume toute ta vie.
OK.
Genre, c'est comme ça que ça fait. Genre, t'as mal à la gorge, puis là, ben, après ça. Mais comme, j'imagine, comme toi, quand t'as.
Quand j'ai mué.
Quand t'as mué.
Ouais.
C'est la même chose, en fait.
Probablement.
Ouais, on s'en souvient pas. Il y a plein de trucs, genre, les cartilages poussent un peu, la mâchoire, comme. C'est très intense.
C'est bien maison.
Ouais. Le poil commence à pousser tranquillement, la voix, comme. Puis aussi une répartition. Comme j'ai appris que... Mais bon, je le savais, là, mais une répartition de graisse aussi selon les hormones. Dans le sens que j'ai commencé... Tout à coup, mon gras dans mes hanches est allé vers ma bédaine. J'ai commencé à avoir une bédaine de bière.
Okay.
Tout à coup, genre. Comme on voit les messieurs là, avec une petite bédaine de bière. Je commençais à...
Oh, ça t'a fait chier, j'imagine?
Ben, j'étais comme, OK, il faut embrasser ça. Mais yeah. j'ai trouvé ça weird au début, mais en même temps, c'est des plus puis des moins, dans le sens où est-ce que comme ça fait que t'as moins de gras dans les hanches.
Genre,
c'est juste comme ça. C'est beaucoup, 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 beaucoup de trucs.
C'est beaucoup de changements.
Énormément, ouais.
C'est fou, raide.
Rapide, mais lent à la fois. Puis c'est là que tu parlais plutôt de... Tu m'as posé comme question, est-ce que t'as hâte, dans le fond, que ça arrive? Puis disons que je parle à des jeunes trans ou à peu importe leur âge, là. Je leur dis souvent de essayer de commencer les hormones dès qu'ils commencent à être plus capables. parce que c'est difficile. Disons que tu es une personne comme qui vit beaucoup de dysphorie de genre, qui est en dépression, qui va pas bien, qui a beaucoup d'anxiété. Si tu commences tes hormones un peu plus tôt, ben tu vas, parce que les 4, 5, 6 premiers mois, personne remarque rien, là. Même la première année, personne remarque rien. Fait que genre, c'est une autre année que ça va pas vraiment changer, puis que tu vas encore vivre la tristesse, la colère, l'anxiété. Fait que genre,
est-ce que tu ressens à ce moment-là un peu d'impuissance?
D'impuissance, de colère, d'incompréhension, mélangée avec comme une joie de petits changements.
C'est ça.
Oui. Puis comme, encore une fois, je disais plutôt qu'on voit le coming out comme une fin en soi, mais on voit aussi les hormones comme, ah, oh, enfin, tu vas devenir un vrai trans, tu comprends? Toutes ces idées-là qui sont pas le fun, mais c'est pas parce que tu commences les hormones que tu t'as coûté plus valide. Là. Tu l'étais autant avant,
ouais,
tu seras autant après. Mais... c'est beaucoup, là.
Mais ça.
Ouais.
La chirurgie.
Ouais, la chirurgie.
Ça doit être stressant.
C'est intense, ouais.
Vraiment?
Ouais. Moi, c'était la première chirurgie que j'avais de ma vie, là.
Ouais.
Fait que...
Ça t'a pris... Est-ce que... Ça t'a, tu disais tantôt, quand t'as eu ta prescription, ça a pris 9 mois.
Mm-hmm.
À quel moment t'as fait, OK, j'y vais? Parce que j'ai lu un post que tu as fait là-dessus, mm-hmm. qui était vraiment beau.
Mm-hmm.
Puis je trouve que ton post illustre bien les deuils,
mm-hmm.
le travail personnel à faire, t'sais, mental, mm-hmm. d'amour propre,
mm-hmm.
de l'être humain que tu as été, de mm-hmm. l'être humain que tu deviens.
Mm-hmm.
Y a beaucoup d'éléments là-dedans. Là.
Mm-hmm. Non, énormément. Puis je pense que qu'est-ce qui est compliqué, c'est de s'assurer que... le temps médical puis l'attente médicale match un peu avec ton parcours personnel.
Ouais.
Fait que, parce que quand tu veux avoir accès à une chirurgie, c'est beaucoup de paperasse. Là. C'est beaucoup de bureaucratie. Fait que, genre, c'est compliqué de, à la fois, genre, travailler sur comme comme moi, j'ai essayé de beaucoup accepter. J'ai fait le vidéoclip avec Safia, le Lesbian Breakup Song.
Ouais.
Puis comme, à l'époque, j'avais encore mes seins. Puis comme, pour moi, c'était comme, ah, je vais essayer de...
Wow!
Je vais essayer de célébrer un peu ce corps-là qui, même si, comme, paraît féminin et masculin parce que c'est le mien, tu comprends?
Ouais.
Puis...
Quelle belle manière que de célébrer ton corps!
Quand même.
C'était le fun. Ça existe, ouais. Tu sais? Ah, wow! Je savais pas!
Ouais.
Ah, je trouve ça magnifique!
C'est le fun!
Ouais, vraiment!
De, comme, accepter tout ça, puis de... Puis aussi de... J'avais pas envie de dire au revoir, comme... à mes seins dans la honte, dans la colère. J'avais envie de leur dire au revoir dans comme l'acceptation.
Ouais.
Fait comme c'est ça, c'est quand tu commences ton processus. Je sais pas si je veux rentrer là-dedans, mais c'est public. Non, mais pas. Je veux pas rentrer dans la bureaucratie.
Ouais.
Mais c'est public privé, comme ça prend du temps. Il faut que le gouvernement accepte comme faut que le gouvernement accepte que tu auras la chirurgie. Après ça, c'est beaucoup de temps. Puis moi, j'ai eu la chance de attendre seulement 10 mois pour l'avoir. Donc, entre le moment où est-ce que j'ai appliqué et le moment où je l'ai eu, il y a eu seulement 10 mois. Il y a des gens qui attendent des années et des années. Fait que j'ai eu la chance que quelqu'un cancelle puis que moi, je me fasse appeler. Puis que là, ils me disent, le mois prochain, t'es-tu dans? Déjà, les gens, souvent, n'ont pas la chance de pouvoir juste dire oui. Moi, je travaille dans un organisme communautaire LGBT. Fait que ce serait weird que mon employeur soit comme non. mais t'as pas toujours la chance de pouvoir tout à coup prendre un mois de vacances. Vacances, c'est un grand mot.
Ouais.
Puis c'est ça, c'était. Moi, qu'est-ce qui me. J'étais full stressé de la chirurgie, mais comme on sent rien, là. On s'entend. Ouais. Là. Mais c'est qu'après, c'est un mois de.
Convalescence.
Puis c'est un mois comme que tu peux pas bouger. Là. Fait que moi, j'ai presque fini Breath of the Wild de Zelda en un mois. mais non, c'est ça, si tu peux pas te lever, tu peux pas fonctionner tout seul, tu peux pas lever les bras, tu comprends, tu peux pas. Clavé, tu peux pas. Genre, c'est vraiment comme un j'ai trouvé ça difficile.
Ouais, avec raison.
Puis comme. Puis je veux dire, je t'as sûrement déjà eu une chirurgie dans ta vie, mais comme c'est vraiment étrange parce que tu fais ça pour plus te sentir comme toi, mais t'as un mois complet où est-ce que tous les gens doivent t'aider pour fonctionner, en fait.
Ouais.
Puis c'est comme c'était intéressant. C'était.
Puis qui t'accompagne dans ces moments-là?
Ben, j'ai eu la chance d'avoir comme d'habiter dans une maison avec plein d'autres personnes trans et non-binaires qui m'ont beaucoup supporté là-dedans.
Wow.
Ma partenaire à l'époque aussi, qui m'a full supporté là-dedans. Puis ouais, je pense que la chance d'avoir une communauté qui soutient entre eux. Mais sinon, c'était beaucoup de... Je veux dire, ça se résume pas mal à juste prendre des tiennes aux 4 heures puis être dans ton lit. Là, fait que... mais pendant un mois au complet... Mais ouais, je pense que... Puis de tranquillement voir que c'est vrai aussi.
Ouais.
Ça, c'est super intéressant dans le sens où est-ce que tu te réveilles puis tout à coup, tu veux qu'est-ce que tu as toujours... qu'est-ce que tu as toujours voulu.
Ouais.
Voilà. Et d'accepter, genre d'être comme... Oh, OK. Genre d'être comme vraiment heureux, mais aussi comme un gros changement tout à coup.
Ouais.
Comme...
C'est drastique, là.
C'est drastique. Puis j'ai vraiment... Je pense que c'est le changement que j'ai le plus aimé, qui a été le plus formateur, mais aussi le plus drastique, dans le sens où est-ce que bon, en plus j'avais des gros seins, fait que genre c'est difficile à cacher, c'est encombrant, comme tu dois porter des vestes de compression pour les cacher, comme c'est beaucoup de c'est très c'était un changement comme oh tout à coup comme le cœur plus léger un peu.
Ouais.
Puis moins de temps dans la journée consacré à ça. Genre comme plein de... J'étais comme wow! Comme...
T'as dit c'est le changement le plus formateur.
Ouais.
En quoi ça a été
formateur? Mais je pense que pour moi, ça a été formateur... C'est vrai pourquoi j'ai choisi ce mot-là, merci. Check-toi. formateur dans le sens où est-ce que... Mais comme j'ai dit, de faire tout le processus, d'accepter que mon corps était masculin, peu importe si j'ai une chirurgie ou non. Puis d'essayer...
Ça, mettons, faire ce chemin-là, excuse-moi, je t'ai coupé.
Vas-y.
Tu sais, il y a un travail quotidien de contrôler ses pensées, d'éteindre les pensées négatives ou du moins de les atténuer, de renforcer le positif. Mais est-ce que tu consultais? Est-ce que tu faisais, je sais pas, des activités physiques quelconques, as-tu quelque chose qui t'accompagnait dans ce processus-là?
Non. Mais puis ça, c'est un truc qui manque beaucoup, bien sûr. Là, comme, moi, j'ai réussi à seulement avoir accès à une thérapie comme quand j'ai réussi à faire plus d'argent. Là, comme c'est un pattern que tout le monde a où est-ce que si tu veux avoir une thérapie de qualité, il faut que tu débourses pour.
Ouais.
Mais je dirais que non, en fait. Puis que peut-être que ça aurait été plus facile pour moi si j'avais eu ce sport-là.
C'est quand même... Est-ce que tu penses que quelqu'un qui vit une transition,
mm-hmm.
qu'elle soit sociale, médicale ou...
Légale,
est-ce que tu penses que ça devrait inclure une psychothérapie?
Mais ça devrait être optionnel. Dans le sens où est-ce que... qu'est-ce qui est drôle, mais j'utilise le terme drôle, mais on comprend.
Ouais, ouais.
Pour avoir accès à une transition médicale ou légale, en fait, tu dois venir aller chercher les services d'un professionnel de la santé mentale. Mais tu dois le payer. Tu comprends? Dans le sens où est-ce que la chirurgie, les chirurgies, c'est gratuit au Québec, mais pour pouvoir avoir accès à la chirurgie, il faut que tu payes au moins 500$ en thérapie.
Mmh,
fait que c'est pas gratuit dans le sens...
Ouais.
0$ du terme, mais c'est pas non plus 10 000$ comme aux États-Unis. Mais ouais, c'est ça, c'est dans un monde parfait, genre. Mais pas dans un monde parfait, mais dans un monde qu'on altère un peu. Peut-être ouais. que ça serait le fun que quand tu parles de ta transition, mais en fait, ce suivi-là soit fait pour de vrai, puis soit offert. Tu comprends?
Ben, encore une fois, je trouve c'est que ça démontre à quel point la santé physique,
mm-hmm.
On en parle, puis on en prend soin, mais la santé mentale,
on
vraiment
s'en fout,
pas
ça.
Beaucoup, là, pour ne pas dire pas pantoute, exact. Mm-hmm.
Parce que pour pouvoir avoir eu ma chirurgie, j'ai dû avoir des séances pour parler de mon genre, tu comprends? Mais ça aurait été parfait si comme j'avais eu ce suivi-là pour de vrai, et non pas juste comme un outil pour avoir un papier pour réussir à avoir une chirurgie.
Ouais.
Comme...
Ouais. Est-ce que ces séances-là ont quand même été bénéfiques?
Ben non. C'est ça le truc, c'est que c'est vraiment, un outil pour acquérir quelque chose. C'est pas vraiment. Puis de toute façon, tu veux pas. T'es pas complètement toi parce que tu sais que si la personne doute, ben ça va te coûter plus cher. Tu comprends? Fait que genre, tu veux juste. Moi, j'ai eu la chance avec ma plateforme en ligne d'avoir une sexologue qui me followait sur Instagram. Qui me croyait, tu comprends?
Ouais.
Donc, d'avoir ça m'a coûté moins cher parce qu'elle était comme, je vais te le faire en une séance, tu comprends?
Wow!
Mais...
c'est bien cool.
Ouais, c'est cool. Hein?
Ouais.
Même chose, ma médecin aussi, j'ai posté sur Instagram, puis elle cherchait des...
Il y a du monde nice en
dedans. Il y a du monde nice, ouais, ouais.
Ah, qu'il y a du monde nice, c'est cool, ça.
Ouais.
Fait que là, la transition médicale.
C'est ça, c'est... Ben, chaque personne trans va décider, est-ce que je veux prendre des hormones? Est-ce que je veux avoir une chirurgie? Est-ce que, parce que tu peux très bien, je pourrais très bien avoir une mastectomie sans prendre d'hormones, inversement,
ouais.
Tu comprends?
Ouais.
Mais, puis après ça, il y a une transition légale qui pourrait être avant ou après. Moi, je suis vraiment un procrastinateur de première. Donc, j'ai changé mon nom légal après avoir eu mes chirurgies.
OK.
Ce qui est comme pas. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je pense que c'était juste que je me disais tant qu'à mettre de l'énergie dans la bureaucratie, je préfère mettre de l'énergie pour avoir une chirurgie que pour avoir une nouvelle carte d'identité.
Puis encore une fois, comme tu le dis, c'est tellement personnel,
ben,
ce cheminement-là, que peu importe l'ordre,
mm-hmm.
peu importe le chemin que tu décides d'emprunter,
oui.
c'est le tien. T'sais.
Exactement. Puis fait que c'est ça, c'est un autre truc encore de comme... puis ça a changé, c'est plus aussi difficile que c'était, mais c'est ça, tu vas te faire... comme quand, disons que toi, tu veux changer de nom,
ouais.
c'est la même chose. Comme tu t'en vas changer ton nom, disons que demain tu te réveilles et tu veux vraiment, vraiment, vraiment t'appeler Steve, ben tu peux aller le faire.
J'ai parlé de ce processus-là avec Alicia Kazominka,
ouais.
elle est venue sur le podcast, puis ouais, elle avait vécu, ça avait été complexe un peu.
Ouais, c'est complexe. Puis c'est surtout le changement de mention de genre, en fait, qui est compliqué parce que comme moi, je passe d'un F à un M, comme il y a ça qui est compliqué. Mais je me sens chanceux aussi parce que j'ai des amis qui sont un peu plus vieux, qui ont comme dans la quarantaine, qui ont fait leur changement de nom au début des années 2000. À l'époque, il fallait. C'est vraiment awkward, là, mais il fallait poster dans un journal que tu changeais de nom. Fait que, genre, pour pouvoir avoir accès à tes nouvelles cartes, il fallait que tu sois, genre, mais par exemple, toi, Jérémy du Temple ouais. devient Steve du Temple.
Ouais.
OK? Mais comme. Puis il fallait que ça soit écrit dans le journal. Puis ça, c'était la preuve que t'étais assez sérieux pour le faire.
Oh my God.
Mais genre, imagine le niveau de violence que tu vis quand ça monte une transition. Puis que, disons que tu publies ça dans le journal de ta petite ville, personne ne sait que tu transitionnes. Tout à coup, les gens sont comme dans un contexte de campagne aussi. Là, ça marche pas du tout. Là.
Ouais.
Puis, fait que les gens, ils faisaient ça dans un journal les plus loin possible de chez eux. Il y a des gens qui ont vécu la violence parce que des personnes transphobes, des groupes... faisait des recherches en ligne pour trouver leur ancienne identité. puis comme plein de trucs comme ça, où est-ce que à la base ça a été fait pour les gens qui changent de prénom puis pas d'identité de genre, donc c'était fait pour annoncer à tout le monde justement genre que tu t'appelles plus Jay, tu t'appelles Steve, tu comprends? Mais ouais. T'as pas nécessairement envie en tant que personne trans d'annoncer au monde entier que tu fais une transition de genre.
Ouais.
Fait que genre ça a été changé. Je pense que c'était en 2015, justement, pour...
C'est quand même récent, là.
Ou très récent, oui.
Oh my God. C'est fucked up que... C'est quoi ton rapport à la différence? Parce que ce que j'entends, à chaque fois que je vois des... ou que j'entends parler d'épisodes violents mm-hmm. envers des groupes, envers n'importe qui,
mm-hmm.
Ça me dépasse à quel point les gens ont de la difficulté à comme juste « Hey, c'est la vie de quelqu'un d'autre,
mm-hmm.
c'est pas la mienne.
Mm-hmm. »
Mais ils veulent... L'être humain est weird. L'être humain a besoin comme de dire ce qu'il pense de l'autre mm-hmm. constamment. L'autre est une... est un allié puis un ennemi. C'est tellement mm-hmm. particulier. Toi, ton rapport à la différence, c'est quoi, tu sais?
Mm-hmm.
Parce que il y a des gens qui vont dire que t'es différent,
mm-hmm.
mais techniquement, on est tous les différents de quelqu'un. Tu sais.
Mm-hmm. Non, c'est vrai. Je dirais que... Encore une autre bonne question.
Je sais pas, c'est peut-être...
Non, c'est bien. Non, je pense que... mais je pense qu'en premier lieu, comme la différence, c'est de réaliser que t'es différent. Je veux dire, beaucoup de personnes marginalisées, ne serait-ce qu'une personne racisée, une personne avec un handicap physique, c'est en étant en contact avec les autres que tu réalises que t'es différent.
Ouais.
Donc, il y a ça en premier, de comme. Puis je parlais de solitude, de comme te rendre compte que à l'enfance, à l'adolescence, que t'es pas comme les autres.
Ouais.
Fait que ça, je pense que c'est un des premiers trucs de la différence qu'on vit. Puis de développer une espèce d'empathie, mais aussi des fois, ça peut être. C'est tellement complexe parce que dans le sens que tu peux à la fois développer une empathie, mais tu peux aussi développer une colère. Genre. Donc, tu peux développer une empathie où est-ce que tu te dis, ben moi, je suis comme ça. J'ai de l'empathie pour les autres parce qu'ils vivent des trucs similaires. Mais tu peux aussi dire, moi, je vis comme ça, j'ai réussi à passer par-dessus. Pourquoi toi, t'es pas capable de passer par-dessus?
Ouais.
Fait comme plein de choses comme ça qui créent des problématiques internes et des trucs vraiment autant à l'intérieur de soi qu'à l'intérieur des communautés. Là, de comme... C'est vraiment compliqué. Parce
oui.
que...
Puis le fait de faire partie mm-hmm. d'une communauté, j'imagine que ça vient un peu rallier ces sentiments-là de faire mm-hmm. « Oh mon Dieu, je me sens compris, je me sens reçu, je mm-hmm. me sens adéquat.
Mm-hmm. »
Ça doit être très rafraîchissant.
Mm-hmm. Mais je dirais que les deux, dans le sens où est-ce que c'est très rafraîchissant, mais aussi, on est comme toute une gang de personnes blessées ensemble. Donc, il y a comme les deux qui jouent ensemble. Puis je pense que, qu'est-ce que j'apprends, là, j'ai 29 ans maintenant, là, qu'est-ce que j'apprends, c'est que la vie entière est toujours une contradiction. Mais il y a un sentiment de fierté, un sentiment de comme te reconnaître chez les autres, de pouvoir avoir des conversations, pas avoir à t'expliquer tout le temps. Mais il y a aussi le sentiment de... on est tous tellement différents. Puis on a tous tellement des parcours différents. Puis on est tous tellement maganés. Que genre, c'est clair aussi qu'à l'interne, comme il y a la colère. Il y a comme de la... Oui, ça peut être très intense, autant dans le positif que dans le négatif, en fait.
Est-ce que tu te permets de vivre ta colère?
La réponse facile est non. Là. Je dirais que non, en fait. Que je suis pas une personne qui se permet de vivre sa colère, si je réponds franchement. Là. Mais j'essaye.
Yeah.
Ouais. Mais,
ce qui est fucking parfait, là, dans le sens c'est un bon point de départ. Là,
c'est un bon point de départ, oui. C'est pas facile, c'est pas facile.
Non, ben c'est une autre affaire qu'on accepte mm-hmm. peu dans la société, encore mm-hmm. une fois, tu sais. Fait que... Il y a beaucoup... Je suis très empathique à ta situation. J'espère mm-hmm. vraiment que tu vas bien. Comment est-ce que... comment tu te sens aujourd'hui?
Ben je me sens bien. Non, je vais bien. Dans le sens où est-ce que... c'est une grosse question, ça.
Ben oui.
Ouais, je dirais que le plus que j'ai accès à à la transition médicale que je veux avoir. Le plus que je me reconnais, le mieux que je me sens dans mon corps, le mieux que ma vie est moins centrée sur mon identité constamment. Dans le sens où est-ce que je me sens stable de plus en plus dans qui est-ce que je suis, ce qui fait que je peux passer plus de temps à dealer avec mes autres shit, tu comprends?
Yeah.
Fait qu'il y a ça où est-ce que je me sens, par rapport à mon identité de genre, je me suis jamais senti aussi stable par rapport à ça dans ma vie.
Wow.
Puis je trouve ça intéressant de voir que, mais c'est à célébrer. Puis aussi, c'est fun à comme, se dire à haute voix comme ça.
Ouais.
Mais ça fait aussi que je suis comme, ah, oh, ben j'ai plein d'autres trucs à dealer en fait. Tu comprends?
Ouais.
Puis c'est intéressant de comme. Mon anxiété, c'était pas juste parce que je suis une personne trans.
Tu comprends? Ouais.
Genre,
ouais.
Tout ça de comme, ah, oh, il y a plus que. Parce que quand t'es. Tout ton. Je sais pas, tout ton outlook sur la vie est juste par rapport à tu veux transitionner. T'es dans la bureaucratie, tu veux avoir des chirurgies, tu veux ça, toute ta vie est par rapport à ça. Quand tu commences à atteindre ces trucs-là puis à plus être juste le nez dedans, t'es comme, oh, OK, il faut dealer avec tout le reste aussi.
Ouais. Est-ce que ça devient comme une espèce de nouvelle sorte d'identité?
Mm-hmm.
Parce que ça a tellement fait... Puis je peux même pas m'imaginer, mais je peux tellement juste comprendre que quand quotidiennement, même à chaque minute,
mm-hmm.
à chaque rencontre, dans chaque lieu,
mm-hmm.
tu veux juste comme crier à l'humanité qui tu es.
Mm-hmm.
Je comprends que ça devient ton focus.
Mm-hmm.
Je peux même pas m'imaginer.
Mm-hmm.
Mais une fois que ça, c'est un peu comme calmé,
mm-hmm.
là, c'est une nouvelle manière d'interagir.
Oui,
c'est un peu
oui.
une nouvelle manière de vivre. Là,
puis c'est de se sentir plus, ben, je sais pas, plus groundé en soi. Comme... Puis c'est ça, genre j'ai jamais réfléchi à ces choses-là tant que ça avant d'être ici
ouais.
dans ta maison de campagne. Puis, mais je veux dire, j'exagère. Mais ouais, je pense que c'est un tout nouveau outlook sur la vie. Puis c'est aussi vraiment. Oui, je vais faire un loop. On reparle du deuil aussi.
Ouais.
Dans le sens où est-ce que c'est un deuil qui est encore plus récent, c'est comme. Ah ouais, c'est vraiment beaucoup de trucs en même temps. Puis genre, puis je veux dire, il y a des joies dans le fait d'être trans. Dans le sens, il y en a plein.
Ouais.
Il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de hardship, mais il y a plein de joies parce que si on me demandait est-ce que t'aurais préféré naître comme garçon, genre non.
Ah ouais? Hein?
Comme, moi, je suis pas dans la gang qui aurait préféré ça parce que... Puis il y a des gens que oui, je veux dire, comme on est différents,
yeah.
mais genre, je pense que mon parcours fait qui est-ce que je suis puis que mon outlook sur la vie... Puis genre, mon regard sur la vie fait que genre, j'aurais jamais... Je sais pas, genre, j'aime célébrer qui est-ce que je suis à travers ce parcours-là.
C'est très cool à entendre.
Ouais.
C'est très cool.
Mm-hmm.
Wow. J'imagine que la fierté aussi, tu sais... bon, maintenant, c'est un mot qu'on connaît, c'est la mm-hmm. célébration. On est dans le mois en ce moment mm-hmm. de la fierté. Il y a la semaine, c'est une semaine au mois d'août, le festival, la fierté.
Oui. Mais ça, c'est. Si tu veux que je fasse ma petite minute d'histoire.
Vas-y.
Mais au Québec, c'est où le mois de la fierté?
OK.
Mais je veux dire, dans le monde entier, c'est juin.
Ouais.
Puis nous, c'est parce que. Ben, tu sais que la fierté, c'est à cause de. Mais c'est pas à cause, mais c'est grâce à l'événement de Stonewall.
Raconte-moi donc.
Ben dans le fond, dans les années 60, 70, 80, tu pouvais pas porter plus que un, plus que c'était quoi, plus que trois morceaux de vêtements associés au genre. Fait qu'il y avait beaucoup, beaucoup de descentes de police dans tous les bars aussi parce que l'homosexualité c'était illégal. Fait que genre, c'est ça, il y avait beaucoup de descentes dans les bars pour comme arrêter tout le monde. Il y a un Stonewall, Stone Butch Blues, qui est un très bon livre à lire sur
okay.
ça. Dans le fond, des descentes dans les bars, puis tu faisais arrêter. Puis il y a un soir où est-ce que ben, les gens n'étaient plus capables, comme entre autres Marsha P. Johnson, puis plein d'autres femmes trans racisées, qui ont été comme fuck that, genre pourquoi la police vient toujours.
J'ai entendu parler.
Oui, c'est ça.
Yeah.
Puis il y a eu. C'est ça, les gens ont commencé à se battre avec la police. Tu
Let's fucking
puis,
go.
Ouais, puis là.
Quel courage.
Exactement.
Fuck.
Puis ça, c'est comme le début plus. Pas le début parce que genre il s'est passé plein de trucs avant là, mais genre c'est le mois de la fierté, c'est pour célébrer en fait ce moment où est-ce qu'il y a comme une cassure. Puis le truc c'est que au Québec il s'est passé un événement similaire à Montréal, puis c'était en nous pour décider de célébrer.
Wow.
Par rapport à ça. Ouais.
Ah.
Ouais.
Merci.
Ouais. Il y a un moment, parce que dans le fond, à Montréal, il y avait des bathhouses, des saunas gays. Ouais. Où est-ce que même chose, il y avait beaucoup de débarques dans la police. Puis un moment donné, les gens ont fait comme « fuck that, arrêtez ». Puis c'est pour célébrer, en fait.
Wow! Qu'est-ce que ça représente pour toi?
La fierté.
La fierté.
Je pense que je suis rendu un peu dans ma vie où est-ce que qu'est-ce que j'aime le plus d'aller à la fierté, si je parle juste de l'événement, c'est de voir comme toutes les personnes plus jeunes qui y vont.
Yeah.
Je trouve ça beau. Comme.
Du haut de ses 29 ans.
Je suis là. Mmh. Mais comme juste le fait de voir, justement dans mon travail aussi, comme de voir des jeunes comme au secondaire, au primaire qui viennent à Montréal, puis qui sont comme. Ou des jeunes des régions aussi, des banlieues qui viennent à Montréal, qui sont comme waouh, je peux. Il y a des gens comme moi. Genre, je pense qu'il y a quelque chose de vraiment beau là-dedans.
Vraiment?
Fait que je pense que beaucoup de ma fierté va là, dans le sens où est-ce que je vois une progression, puis ça revient encore avec la représentation, où est-ce que c'est big de savoir que une jeune de 10, genre 12 ans peut venir à Montréal à être à la fierté, puis voir des gens comme soi.
Ouais.
Fait que genre, je pense que ça, c'est une grosse fierté que j'ai. Sinon, la fierté, c'est vraiment, pour moi... je sais pas, juste célébrer, une célébration de qui est-ce que je suis, qui est-ce qu'on est, de aussi se rappeler qu'on a beaucoup de travail à faire encore, mais aussi célébrer le travail qui a été fait, puis célébrer les gens qui ont fait que ce travail-là a été possible.
Exact.
Fait que, je pense que c'est pour ça, la fierté pour moi, c'est pas mal ça.
Absolument. Ouais. J'ai la chance d'y aller déjà, tu sais, puis c'est tellement nice.
Mm-hmm.
La vibe est tellement bonne. Que ça brise le cœur de savoir que ça dérange du monde.
Mm-hmm.
Que des êtres humains soient eux-mêmes.
Oui, c'est vrai.
Puis elles-mêmes, c'est... Parce que c'est... Il suffit d'y être.
Mm-hmm.
Puis tu fais... Mais c'est très, très bien ce qui se passe mm-hmm. ici. Là. C'est... On est en train d'avancer. L'humanité mm-hmm. va bien, là. Quand t'es proche de... Quand tu sens cette communion-là, ce respect-là, ce partage-là, cette acceptation-là,
mm-hmm.
c'est... C'est extraordinaire. Je veux qu'on parle de Alter Hero.
Ouais.
Parce que c'est la première fois que j'entendais parler
mm-hmm.
De ça, puis je pense que c'est important qu'on en entende encore plus.
Ouais.
Yeah. Donc, c'est... Comment... Quand est-ce que ça a commencé? C'est-tu récent? C'est-tu...
En 2002.
OK.
C'est pas si récent que ça. Ben, dans le fond, en 2002... Il y a une gang de gens qui étaient comme l'Internet, c'est vraiment cool.
Yeah! Hein? Les allumés, là.
Les allumés
qui l'avaient, là.
Qui étaient comme, je pense que ça se peut que ça soit genre un truc qui marche. Puis là, ils étaient comme ensemble. Et on devrait faire une espèce de communauté en ligne de personnes LGBTQ+. Récemment, justement, j'ai fait les annales de Alter Hero. J'étais quel mot? Qu'est-ce qu'on dit? Peu importe. Fait que j'étais allé chercher toutes les vieilles versions du site web. C'était vraiment cute de voir genre le site web en 2002.
Ouais.
Puis il y avait une espèce de. Le but, c'était d'avoir un espace francophone LGBTQ+ en ligne. Donc c'était vraiment ça. Il y avait comme plein de différents trucs à faire, comme pour les parents, pour les jeunes.
Parents, on n'en parle pas si mm-hmm. souvent que ça, évidemment, parce que c'est la personne concernée oui, qui oui. vit, puis c'est parfait que ce soit elle qui soit au mm-hmm. cœur de cette conversation-là. Mais récemment, j'ai rencontré un parent qui accompagne son enfant, tu sais,
mm-hmm.
Et j'ai senti toute la douceur, le souhait de bien faire, mm-hmm. le souhait d'être là, de respecter aussi.
Mm-hmm.
Les lieux où son enfant souhaitait pas,
mm-hmm.
c'est vraiment quelque chose pour un parent aussi. Mm-hmm. Fait que c'est cool qu'il y ait des ressources.
Oui, comme on reçoit. Justement, j'ai participé à un panel cette semaine sur juste de voir des parents qui parlent entre eux, puis comme des parents qui s'aident, qui apprennent à déconstruire un peu ensemble aussi,
ouais.
comme leur appréhension, puis leur stress, puis leur préjugé. Mais c'est ça, on était comme une. Alter Hero était. Le but, c'était d'être vraiment une plateforme en ligne de communautaire. Donc, il y avait autant des places où on avait des questions, mais aussi, genre, les calendriers des événements. Fait que, genre, dans le temps que Facebook n'existait pas,
ouais.
il essayait un peu d'être un Facebook gay. Tu
ouais.
comprends? Fait que c'était vraiment, il y avait un calendrier de qu'est-ce qui se passe ce mois-ci à Montréal ou dans les régions, comme il y avait des forums.
Yes.
On parle de ça comme si c'était vintage.
Oui.
Donc, ça, c'était vraiment vintage. Puis, dans le fond, en 2008-10, quand Facebook était créé, c'est devenu un peu obsolète. Fait que tout était un peu transféré sur Facebook, sauf tout ce qui est en lien avec l'intervention. Parce qu'on a vraiment créé pas une communauté, mais genre vraiment une porte d'accès de première main pour questionner son identité. Donc, nous, comment ça fonctionne, c'est que c'est complètement anonyme. Donc, on reçoit des questions de gens qu'on sait même pas si c'est comme ça se peut que ce soit leur pas vrai nom, ils créent une adresse email, peu importe. Fait qu'on est souvent une première porte d'entrée, même avant d'appeler les lignes d'écoute, parce que c'est. On va s'entendre que c'est difficile d'appeler quelqu'un. Fait que, ouais. Genre, on est souvent une première porte d'entrée vers un support ou juste quelqu'un qui écrit pour la première fois que peut-être que son orientation sexuelle, comme tout ça. Genre,
ouais.
Fait que je dirais que. Puis je trouve que c'est très powerful. Je pense que c'est un truc en ligne, je pense que l'Internet peut nous offrir, l'espèce de. Anonymat, puis de pouvoir aller chercher ça. Fait qu'on reçoit beaucoup de questions de autant des parents, des intervenants, des jeunes de toute orientation sexuelle aussi qui nous posent leurs questions sur le sexe en général.
Mm-hmm.
Fait que ça. Fait qu'Altero, on s'est vraiment comme construit à travers ça, être une plateforme d'éducation, puis d'éducation sexuelle en ligne, accessible, puis confidentielle. Puis on a aussi un deuxième programme qui est vraiment cool, qui existe depuis 2017, Neurodiversité, qui est pour les jeunes qui sont sur le spectre de l'autisme ou tout autrement neurodivergents. Qui sont aussi LGBTQ+. Donc ça, c'est une autre réalité vraiment différente, mais tellement comme qui vit ensemble. Où est-ce qu'on a vraiment du support en ligne, des rencontres, pour briser un peu, dans le fond, le... Comment on dit ça? Pour la solitude, en fait. On revient.
Ouais.
Dans le fond, c'est vraiment... on a ces deux programmes parallèles. Donc, pose ta question, qui répond aux questions des jeunes et moins jeune, et neurodiversité qui vient soutenir les jeunes sur le spectre de l'autisme ou TDAH, tout ça, qui sont aussi LGBTQ+.
C'est donc bien cool!
Mm-hmm.
Wow!
Fait que bien du temps, bien du plaisir.
Yeah! Là, tu me disais avant qu'on ouvre les micros que là, il y a encore plus de gens qui travaillent avec vous.
Mm-hmm.
Quand tu dis que tu parles à des jeunes,
mm-hmm.
c'est dans quel contexte? C'est-tu des conférences? C'est-tu des rencontres? C'est...
Je parle souvent à des jeunes plus par rapport à plus ma présence en ligne.
Ouais.
Donc, je suis appelé des fois à faire des conférences, à parler à des jeunes. Au début, c'était plus sur les sextoys, qu'on s'en souvient, que j'ai travaillé en sex-shop.
Yeah.
Fait que j'avais donné des ateliers sur les sex-shops, sur les sextoys. En fait, dans les universités. Puis de plus en plus maintenant, bien, on fait appel à moi pour des panels, des conférences, juste pour parler de qui est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais, mon parcours. Donc vraiment, conférences, panels, tout ça.
T'aimes faire ça?
J'adore ça, faire ça. Ouais. C'est le fun. Ouais,
très bon.
Merci. Puis juste de rencontrer des jeunes aussi, comme quelquefois dans des écoles secondaires, il y a quelque chose de beau de les voir comme s'illuminer. Les yeux s'illuminer, peut-être comme « Oh, wow! » Puis de...
Est-ce que tu penses que les cours d'éducation à la sexualité, ça devrait commencer plus jeune?
Ben, je pense vraiment que ça aurait jamais arrêté. On se souvient comment ça a arrêté au Québec.
Ouais.
Mais je pense que oui. Je pense que les cours d'éducation à la sexualité, puis ça c'est un gros enjeu parce que bien sûr, Alter Ego, on est dans l'étape concertation puis tout ça. Fait que je dirais que oui, mais que aussi les programmes d'éducation à la sexualité gouvernementaux devraient travailler avec les groupes communautaires. Dans le sens où est-ce que quand le cours d'éducation à la sexualité a été... c'était quand? Quelle année? Wow. En 2005? Oui, en 2005, quand il était enlevé, ce travail-là est juste tombé sur les groupes communautaires.
Ouais.
Comme ce travail-là, il disparaît pas. Donc, je dirais que de plus parler de l'expertise du communautaire et de faire ça ensemble,
mm-hmm.
je pense vraiment qu'il y a... Au Québec, on a vraiment un réseau communautaire fort. Puis comme... vraiment badass.
Vraiment?
Puis je pense qu'on a beaucoup d'expertise, on fait beaucoup de choses, on a vraiment accès aux jeunes directement.
C'est ça, surtout, en fait, c'est que vous êtes en contact avec, mm-hmm. avec eux et elles, pour vrai, vous avez le pouls
mm-hmm.
sincère,
mm-hmm.
Fait que vous avez une expertise, inévitablement.
Exactement. Puis je pense vraiment que, comme parce qu'en ce moment, le gouvernement est en train de refaire un cours d'éducation à la sexualité qui implémente tranquillement. Puis je pense que ça doit être fait de cœur avec les cours communautaires de chaque région, de chaque quartier.
Est-ce que tu penses que ça se peut?
Oui. Je pense que si les gens ont le cœur à la bonne place, ça se fait. Ouais.
Ce serait tellement important.
Mm-hmm.
Ah, ce serait cool.
Mm-hmm.
Est-ce que t'es heureux de où on en est rendu? Je dis heureux, là, mais évidemment qu'il reste plein de chemin à faire pour défendre les droits des personnes LGBTQ+, de la représentativité. Mais j'imagine que dans ta jeune vie, tu viens d'avoir 29 ans, joyeux anniversaire.
Merci.
T'as vu des changements, ne serait-ce que dans la dernière décennie. Comment tu te sens par rapport à tout ça? Est-ce que tu as l'impression qu'on avance quand même?
Mais j'ai l'impression que oui, on avance, mais que... comment dire? Je pense que le sentiment, c'est on avance, mais en retard. Fait que c'est normal que les gens soient en crise. Dans le sens où est-ce qu'il y a beaucoup d'avancement qui s'est fait dans les dernières années, comme c'est sans équivoque. Il y a énormément de progrès qui a été fait, que ce soit au niveau légal, au niveau médical, mais aussi au niveau social, politique, ouais. Tout ça. Puis je pense qu'on peut pas nier ça, mais je pense que la raison pour laquelle ça se passe, c'est parce qu'il y a plein de gens qui sont battus. Faut jamais oublier ça.
Yeah.
Mais aussi, la raison pour laquelle je pense que en tant que personne LGBTQ+, je vais toujours répéter qu'il y a plus de travail à faire, c'est parce que ces choses-là sont en retard.
C'est ça.
Puis comme beaucoup de personnes vont dire... tout à coup, il y a plein de personnes trans qui apparaissent. Genre, tout à coup, genre, c'est comme nouveau. Mais je pense qu'il faut qu'on prenne une petite seconde pour réfléchir à comme toutes les personnes de comme 50 ans qui font leur coming out trans. Comme moi, quand j'ai fait ma top surgery, avec moi, genre dans la salle, il y avait comme un homme trans de comme 60 ans.
Wow.
Puis comme qui avait accès à sa chirurgie. Puis comme. Mais je veux dire, ça pullule, là, les coming out de personnes trans âgées. Fait que ces personnes-là ont toujours existé. Ces personnes-là. Même les personnes qui ont fait la transition dans les années 80, 90, 70, elles ont existé, elles existent. C'est pas que c'est nouveau, c'est qu'on en parle maintenant.
C'est ça, exact.
Mm-hmm.
Est-ce que tu sens des fois, justement, quand tu dis les gens sont comme « il y en a de plus », des fois ça me gosse de sentir qu'ils sont comme comme s'il y a trop de problèmes qu'on attaque en même temps.
Mm-hmm.
Mais en même temps, je trouve qu'il manque d'empathie.
Mm-hmm.
Les gens qui font ben là, une autre affaire. Là,
mm-hmm.
C'est comme oui, mais imagine si c'était toi. Genre.
Mm-hmm.
Ou au contraire, est-ce que tu sens une espèce de. Ah non, c'est un vent de changement. Là. Ça se sent.
Mm-hmm.
Il y a plus de douceur, il y a plus d'empathie.
Mm-hmm.
Peut-être pas sur les réseaux sociaux tout le temps, mais quoi que sur tes réseaux sociaux, ça me semble être un mm-hmm. lieu très bienveillant. Tu sais, fait quoi, comment tu le vois?
Ben, je veux dire, je pense que je vais profiter de cette question pour parler un peu de genre comment justement les réseaux sociaux c'est un couteau à double tranchant.
Ouais.
Ou est-ce que à la fois c'est un espace où est-ce que les personnes qui ont de la haine peuvent s'organiser? Mais c'est aussi un espace où est-ce que les personnes qui vivent des différences peuvent
se retrouver.
Fait que je pense que c'est deux choses-là. Puis je crois foncièrement que la raison pour laquelle ça avance si vite maintenant, c'est à cause de la rapidité des réseaux sociaux. Puis le fait que les gens se sentent moins seuls. Fait que comme. Ouais.
Et toi, sur tes réseaux sociaux, comment ça se passe?
Ben, ça se passe plutôt bien. Je suis. Je reçois bien sûr comme des messages un peu étranges des fois. Je dirais que comme je suis vraiment dans une approche vulnérable où est-ce que je parle de moi, puis que je centralise un peu comme mon expérience personnelle dans le but de comme que les gens puissent se reconnaître dans qu'est-ce que je vis, mm-hmm. c'est plus difficile pour les gens de m'haïr.
Ouais.
Donc parce que mais je veux dire c'est relatif là.
Mais c'est beau ce que tu dis par contre le fait que tu sois vulnérable.
Ouais.
Ça fait en sorte que t'es super sincère.
C'est ça, oui.
Qui fait en sorte que c'est comme... Hey, mais si... T'sais, je trouve la vulnérabilité... T'sais, c'est Brené Brown qui dit mm-hmm. la vulnérabilité, c'est du courage, tout ça, mais mm-hmm. je trouve que... On dirait que... T'sais, tu t'en venais aujourd'hui, puis il y a une partie de moi qui était... Je suis tout le temps un peu nerveux mm-hmm. quand je reçois quelqu'un sur le podcast que j'ai jamais rencontré, mais on dirait que j'observais tes réseaux sociaux, puis j'étais comme... Ben, j'étais plus nerveux. J'étais comme, ben, c'est quelqu'un de gentil qui s'en vient, tu sais.
Mm-hmm.
C'est quelqu'un de bienveillant. C'est quelqu'un qui est dans l'ouverture. C'est quelqu'un qui. Tu sais, fait que. I guess que tu récoltes ce que tu sèmes
mm-hmm.
aussi, tu sais.
Ouais. Ouais. C'est gentil d'entendre ça. Puis c'est vrai parce que, comme. Ouais, dans le sens où est-ce que je pense que ça me nourrit beaucoup plus de toute manière. Puis c'est comme ça que moi, je décide de vivre ma présence en ligne.
Yeah.
Parce que c'est. C'est comme ça que dans le sens que, je sais pas, là, on s'épuise beaucoup à s'engueuler avec les gens en ligne. Beaucoup trop. Puis ça fait que... ouais, je pense que je préfère vraiment focusser sur tout ce qui a rapport avec la représentation puis qu'est-ce qui a rapport avec comme les joies d'identité trans tout en parlant des difficultés.
Yeah.
Dans le but justement que... mais ça revient à ce que je disais plus tôt dans le sens où est-ce que le premier documentaire que j'ai vu était juste par rapport à la tristesse puis le hardship. Fait que genre, si je peux montrer qu'il y a autre chose aussi, ça peut être positif.
Pour toi, les joies?
Les joies?
C'est quoi?
Ouf, les joies, je dirais de... ben juste de sortir, en fait, de structures. De sortir des structures tellement genrées, binaires. De sortir des structures qui sont tellement sévères. Puis de se donner le droit d'aller au-dessus de ça.
Ouais.
Fait que je pense que ça, c'est une des grosses joies de comme pouvoir jouer avec ça, de pouvoir voir comme l'impact que ça a sur les gens aussi. Puis comme ça, je pense que c'est une belle joie pour moi. Sinon, aussi, juste vraiment comme naviguer les communautés, mais aussi naviguer... Je pense que pour moi, en ce moment, les plus grosses joies que je vois, c'est vraiment... comme je parle aussi à des parents qui ont des enfants trans qui ont comme 4, 5 ans, tu comprends? Puis ça, je trouve ça vraiment le fun. Wow. Genre de comme...
Puis ça, c'est l'enfant qui l'exprime?
Oui, oui, c'est ça.
Wow.
Parce que c'est une réalité comme que tu peux vivre aussitôt que tu veux, dans le sens où est-ce que je pense à je me rapproche de comme deux enfants ces temps-ci où est-ce que comme on est de plus en plus amis et puis comme un de ces deux jeunes là est créatif dans le genre, puis je dis oh, de ces comme deux ans et demi est capable de dire je suis tanné que je suis un garçon, puis c'est pas parce que les parents vont y répéter ça là. C'est vraiment, ça sort du cœur, genre.
Wow.
Fait comme ou de juste des parents qui ont aucune expérience avec l'identité trans puis qui sont comme qui savent pas c'est quoi là, puis genre que leur petite genre soit comme maman, moi en fait je suis pas un garçon, je suis pas une fille, ou je suis un garçon, je suis une fille, puis comme de, je trouve ça bon de pouvoir accompagner mais de pouvoir comme soutenir ces parents là dedans qui comme se donnent la chance d'apprendre, genre.
Yeah.
Puis comme c'est powerful, puis ça me remplit de joie de voir, je sais pas là, des petits enfants trans.
Hey, c'est ça, c'est des mouvements de société quand même. Oui. Tu sais, on est loin de ce que tu as connu.
Mm-hmm. Énormément.
C'est très loin, là.
Oui, puis je veux dire, encore une fois, j'ai 29 ans.
Yeah.
Ouais.
Wow. Ouais. Wow. Sur tes réseaux sociaux, tu parles aussi de ton anxiété, tu parles aussi de moments dépressifs, mm-hmm. ouvertement. Comment tu te sors de ces mouvements-là? Comment tu te... De ces mouvements-là, excuse-moi, mais de ces moments-là?
Mm-hmm. Ah, ouf, ben, je sais pas. Comment qu'on sort, je pense que c'est d'avoir de l'aide, d'accepter que ça va et ça vient. Je pense que si je recoupe un peu à ce qu'on disait plus tôt, de savoir comme... quelle anxiété vient de ma dysphorie de genre, quel épisode dépressif a rapport avec ça, les quelques noms, d'essayer de séparer. Comme, encore une fois, je suis une personne qui aime se compartimentaliser, puis de voir ma santé mentale d'un œil éloigné.
Ouais.
Mais puis c'est ça qui m'aide, là, qui fait que je survis. Mais qu'est-ce qui fait que j'en ressors, c'est d'être capable d'avoir accès à de l'aide, de demander de l'aide, puis aussi de comme réaliser ces choses-là, puis d'avancer là-dedans. Mais c'est vraiment pas facile, je veux dire, comme tu as sûrement déjà vécu des trucs par rapport à ta santé mentale, genre c'est pas c'est très challenge, hein.
Mm-hmm.
Puis il y a pas de réponse parce que tout le monde le vit tellement différemment.
Ouais.
Puis pour moi, la seule réponse que j'aurais par rapport à ça, c'est quelle anxiété est en lien avec mon identité trans, lequel qui l'est pas, comment ça se mélange, puis comment ça peut se... Comment je peux comme pick ou pas, je sais pas. C'est...
Ouais, je comprends.
Ouais, ouais.
Tu disais aussi que tu as développé des troubles obsessifs compulsifs qui se sont transférés quand tu as vécu ta transition.
T'as-tu écouté mon podcast, quelque chose?
J'ai quand même checké ce que tu
fais.
Je m'intéresse.
Oui, oui.
Raconte-moi comment tu as découvert tout ça. Comment les troubles obsessifs compulsifs sont arrivés?
Mm-hmm.
Comment ils ont pu t'aider ou t'étouffer à ce moment-là? Puis comment ils se sont transférés?
Mm-hmm. Ben, moi, la plus grosse... quand j'étais dans mon processus de coming out de mon orientation sexuelle, j'ai vécu énormément de tocs. Où est-ce que, disons que 24 heures sur 24, je me disais, si je marchais pas, disons, si je marchais pas sur les craques du trottoir, c'est parce que j'étais hétéro, tu comprends? Ou j'allais à la piscine, je faisais des longueurs, puis je me disais, si t'en fais 30, t'es hétéro, si t'en fais 31, t'es homo, tu comprends? Plein de choses comme ça, où est-ce que les numéros devenaient super importants. Puis que je gérais mon anxiété comme ça, parce que dans ma tête, il y avait toujours une voix qui disait gay, 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 gay. Puis pour les arrêter, il fallait que je fasse des espèces de rituels. Mm-hmm. Des rituels qui étaient comme, justement, par rapport au nombre. Donc, je comptais tout le temps. Puis j'essayais de me convaincre que c'était pas vrai. Puis c'est comme ça que ça s'est vraiment plus développé. De où est-ce que ça m'a pris 3-4 ans faire mon coming out par rapport à mon orientation sexuelle. Puis je pense que quand pendant 3-4 ans, tu fais ça tout le temps, je veux dire... Puis je pense que ça a été un des moments les plus épuisants de ma vie, pour de vrai. Là.
Genre, c'est comme, sûr!
Comme de tout le temps, je me souviens d'aller à la piscine à tous les jours, puis de comme me dire que... Je sais pas comment mon cerveau a twisté ça, mais de me dire que faire un nombre impair de longueur allait faire que j'allais être hétéro, tu comprends? Ça n'a aucun rapport, mais ouais. Comme, c'est toujours des choses comme ça, des anxiétés qui sont pas... qui sont compulsives, qui sont pas explicables. Puis quand j'ai fait mon coming out sur mon orientation sexuelle, ben tout à coup ils sont disparus pendant une fenêtre.
Ouais.
Ou est-ce que pendant un temps c'était juste genre ah ben j'ai plus à toujours compter puis à toujours stresser. Mais ces choses-là ils partent pas du jour au lendemain, fait qu'ils sont revenus tranquillement. Mais comment j'explique d'habitude à ma psy là, c'est que je vois ça un peu comme si mon cerveau c'était comme une grosse forêt là.
Oui.
Puis j'ai comme des petits sentiers, ok, des sentiers bien battus, puis comme le sentier des troubles obsessifs est très bien battu, même qui est presque comme
pavé.
Il est là, je marche dessus, tout va bien, mais que peut-être que dans la vie je devrais essayer de frayer un petit peu un autre chemin. Puis je pense que c'est ça, c'est que veux pas, ça se transfère. Ou est-ce que c'est qu'est-ce que mon cerveau est habitué de faire? Ouais. Fait que genre, si je vis une anxiété, je vais tomber là-dedans pour me rassurer,
ouais,
pour me faire sentir que j'ai un contrôle sur ma vie, ce qui est comme tellement loin d'être vrai. Mais c'est ça que je fais qui fait que je me sens mieux.
Est-ce que t'as besoin d'avoir le contrôle?
Oh, un peu trop.
Hein. Ouais?
Puis je pense que c'est un truc, si on retourne à la COVID, là, je pense que c'est un truc que beaucoup de gens ont réalisé, ou est-ce que... avec toutes les mesures sanitaires, comme on adore les mesures sanitaires,
ouais,
mais comme toutes les interdictions, comme on se rend compte qu'on a vraiment besoin d'un plus grand contrôle sur nos vies qu'on pensait.
Ouais.
Puis j'ai remarqué, mais encore une fois, Alter Hero, comme avec toutes ces mesures-là qui prennent la place, puis la peur aussi, puis tout ça, ben on se retrouve de plus en plus dans le cerveau, puis on a besoin d'encore plus de contrôle. Fait que moi, je me suis surpris à comme... genre, ou comme voir des gens dans ma vie qui comme... deviennent super intenses avec comme certains trucs pour retrouver un contrôle.
Ouais.
Genre, on voyait au début là comme les gens qui s'entraînaient de façon très rigoureuse parce que genre, je veux dire, c'est bien, mais aussi c'est une manière d'avoir un contrôle quand tu dois rentrer chez toi à 8 heures, tu comprends?
Ouais.
Ou comme d'être juste très sur le contrôle. Fait que oui, genre je suis une personne qui a besoin de contrôle dans la vie, puis j'apprends à accepter ça, puis que ça peut être fait de manière pas toxique.
Ouais. Ouais. Qu'est-ce que ton identité et tout ces deuils, mm-hmm, ces victoires, ces changements, mm-hmm, ces affirmations-là, qu'est-ce que ça t'a le plus appris dans la vie, mettons? T'sais, parce que oui, il y a évidemment qui tu es,
mm-hmm,
mais il y a aussi plein d'apprentissages humains derrière ça. T'sais, justement, d'être capable d'être vulnérable, mm-hmm, de se permettre cette liberté, qui est une... magnifique. Moi, je trouve que c'est une magnifique affaire,
mm-hmm,
qui fait en sorte que ben, si toi, t'es vulnérable, ben, ça fait que tu vas m'ouvrir moi à l'être,
mm-hmm,
qui fait que ben, tu reçois les gens, ton comportement fait en sorte que les gens avec qui tu interagis
s'ouvrent plus.
S'ouvrent.
Oui, 100%.
Se permettent d'être eux-mêmes. Ton travail personnel devient un cadeau pour d'autres. Mm-hmm. Encore une fois, généreux. C'est quoi ces apprentissages-là? Tu sais, tu dois pas être quelqu'un de si... ton ego est comment? C'est ton orgueil?
Mais je dirais que le plus gros apprentissage que j'ai fait, puis que je fais encore aujourd'hui, là, c'est d'accepter que tout peut toujours changer. Je pense que la chose qui m'a pris le plus de temps à déconstruire par rapport à tous ces coming out-là, c'est que je veux pas, quand t'es queer, quand t'es LGBTQ+, tu sors de la norme. Puis sortir de la norme, qu'est-ce que ça veut dire? C'est... encore une fois, pavé un chemin qui n'a jamais été pavé avant. Fait que je me souviens, quand j'ai fait mon coming out gay, je me sentais vraiment comme si j'étais sur le bord d'un gouffre. Genre, je me souviens que j'étais toujours... J'avais du vertige. J'étais comme... C'était corporel. Là. Parce que j'étais comme... Avant, j'étais là, OK, je suis une femme hétérosexuelle. Fait que ma vie, ça va ressembler à ça. Genre, il y avait un plan là, tracé tellement clair.
Là. Le contrôle.
Il y avait un contrôle, il y avait un plan. Puis comme le fait de... Dans ma tête, j'étais toujours comme... Pourquoi je décide de sortir de ça? Pourquoi je décide de comme pas faire ça puis d'aller vers un gouffre qui n'existe pas? Tu comprends? Puis je pense que j'essaie d'accepter que comme... Je sais pas qui est-ce que je vais être l'année prochaine. Là. Je sais pas qui est-ce que je vais être dans 10 ans. Personne le sait, en fait. Là. Puis... c'est vraiment difficile. Puis genre, toute la société est faite un peu pour, je veux dire, quand on est au secondaire, tout ça, comme c'est très imbriqué dans nos cerveaux que genre, les choses vont se passer d'une certaine manière, puis il faut que ça se passe de cette manière-là. Genre. Mm-hmm. Fait que dès que tu déroges un peu de cette norme-là, il y a beaucoup d'anxiété qui vient avec ça.
Ouais.
Fait que genre, je pense que pour moi, ça a été comme l'apprentissage que comme tout le monde vit ça en ce moment. Puis que je dois arrêter de comme... de vouloir comme tenir à ça à ce point-là, puis de laisser aller. De laisser aller que... Puis ça, c'est un libérateur, là. Puis c'est quelque chose que j'essaie de faire à tous les jours. Puis comme... Libérateur que tu sais pas qu'est-ce qui va se passer.
C'est dur, le laisser aller.
Tabarouette.
C'est dur.
C'est pas facile.
Et moi, c'est super weird.
Mm-hmm.
Mais une des... J'ai de la misère à laisser aller, moi aussi, dans la vie. Mm-hmm. Les situations, les humains, les relations, mm-hmm. les name it. Puis, mes tattoos me veulent rien dire pour la plupart.
Ouais.
Et curieusement, ça a été un apprentissage de laisser aller, de faire « Hey, ma peau est comme ça maintenant.
Mm-hmm. »
C'était, j'avais pas du tout prévu ça,
mm-hmm.
mais il y a eu un petit apprentissage de « Hey, laisse aller.
Mm-hmm. »
C'est ça.
Ah, c'est vrai.
Ouais.
Et moi aussi, j'ai des tattoos, puis des tattoos. Puis c'est drôle comment c'est vrai, c'est un laisser aller, puis c'est aussi comme un... Genre, ah, mais c'est mon corps.
Ouais.
C'est les deux à la fois.
Oui.
Ouais. Parce que moi, je veux dire, j'ai un tatou d'une perruche qui fait du skateboard. Là.
Let's go.
Je pense pas que ça veut dire tant de choses que ça. Mais. mais le fait d'avoir mis une perruche qui fait du skateboard sur moi, ben, ça veut dire que c'est à moi, ça. Là.
Yeah.
Ouais.
Exact.
Ouais.
Puis à tout moment, tu t'exprimes si c'est trop personnel. C'est une question que j'ose pas trop demander, mais on dirait que je veux savoir comment toi t'entrevois ça. La famille, tes enfants,
mm-hmm.
Est-ce que c'est une question qui est tellement personnelle, tu sais, mm-hmm. Mais comment tu vois ça?
Dans le moment présent, je sais que je veux pas d'enfants. Mais je sais que j'adore les enfants, puis je sais que je vais être un merveilleux oncle. Genre, pour l'instant, c'est comme ça que je me sens. Mais ça peut toujours changer.
Mm-hmm.
Puis c'est un truc qui est compliqué aussi par rapport à la reproduction en tant que personne trans.
C'est ça.
Je veux dire, si je veux des enfants, je vais trouver une manière d'en avoir. Là. C'est comme pas mal là que je suis rendu dans ma vie. Là.
Okay.
Comme j'ai pas tant... si je décide d'avoir un enfant par moi-même ou avec quelqu'un d'autre ou avec plusieurs personnes, qui sait,
ouais.
Ben, j'adopterai ou une personne d'autre l'aurait, yeah. Ou moi je peux... Peut-être que je vais pouvoir porter, on sait pas. Là. J'ai pas nécessairement envie, là, mais comme on sait pas, justement, laisser aller.
Ouais.
Peut-être que dans 10 ans, je vais être comme, c'est tout ce que je veux.
Ouais.
Mais pour l'instant, j'ai vraiment envie d'être un bon oncle vraiment cool. Là.
That's it?
Ouais.
Qui fucking... Ouais. J'ai la chance d'être oncle 4
ouais.
fois.
Ouais.
C'est un rôle qui est très cool.
Ouais.
C'est très, très cool. Puis, c'est quoi tes rêves?
Mes rêves. Je dirais que ça serait de continuer à vivre ce chemin-là, l'espèce de chemin où est-ce que je me sens de mieux en mieux, puis de voir où est-ce que ça me mène. J'ai des rêves clairement comme matériels, comme plein de gens, où est-ce que j'aimerais ça avoir une stabilité financière, j'aimerais ça inspirer des gens, j'aimerais ça que mes projets se passent, j'aimerais ça réussir à avoir un podcast, des trucs, une chaîne YouTube, plein de shit comme ça.
Yeah.
Mais.
T'en as?
Mais j'essaye tranquillement.
T'en as?
Tranquillement. Oui, t'as raison.
T'es déjà en train de le faire.
Oui, c'est vrai. Que je sois capable de le faire encore plus.
Perdurer, absolument.
Ouais. Yeah. Puis, mais je pense que, aux façons plus sentimentales, c'est de comme t'apprendre à connaître qui est-ce que je suis, où est-ce que je m'en vais, puis d'apprendre à laisser aller. Je pense que mon rêve dans la vie, c'est d'être comme. une personne qui s'en crisse un peu, mais qui est stable. Regarde, je vais dire ça de même.
Je comprends tellement. Ouais. Ça prend un peu de fuck-off. Dans
oui, oui, oui. Genre, j'ai envie de... J'ai envie d'être heureux dans ce que je fais. J'ai envie d'être stable. J'ai envie de me sentir bien. J'ai envie de me sentir accompli. Puis, mais j'ai aussi envie d'accepter que dès l'année prochaine, qu'est-ce qui va me faire sentir accompli, c'est pas la même chose que maintenant.
Ouais.
Mais ouais, c'est ça. J'ai des rêves où est-ce que j'ai envie. J'aime ça. Représenter quelque chose pour des jeunes. J'aime ça. Rentrer là-dedans. J'aime ça. Des jeunes et moins jeunes. On va arrêter de se parler comme si c'était toujours des jeunes. Ouais, je pense que c'est ça mon rêve. C'est de vraiment comme être ancré en moi puis de voir qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ça.
T'as un Christy de Borel.
Quand même.
Est-ce que t'as l'impression que... parce que je trouve ça cool ce que t'as dit tantôt où tu disais que tu changerais rien à ta vie. Est-ce que t'as l'impression que finalement ça a été un peu une espèce, en sorte, entre gros guillemets ici, un cadeau de travail personnel, de travail d'empathie, de compréhension humaine, d'amour, de partage, que d'autres êtres humains auront peut-être, rencontreront jamais.
Mais je pense que c'est un cadeau avec des grosses épines, là, mais,
ouais,
que,
c'est
mais que c'est que oui, dans le sens où est-ce que je suis pas une personne nécessairement si croyante, mais un peu, puis genre je me dis que c'est qu'il y a quelque chose de beau là-dedans, il y a quelque chose de beau dans le sens d'avoir réussi à... Genre, dans le sens que je suis fier de moi. Là. Puis comme, je suis fier de moi d'avoir passé à travers ça, puis de passer à travers ça dans le futur aussi. Puis comme, je pense que c'est certain que... Je pense que c'est impossible de savoir j'aurais été quelle personne sinon. Puis comme, j'ai-tu vraiment envie de rêver là-dessus ou comme de passer mon temps à comme fantasmer sur une vie que j'aurais pu avoir? Non, j'ai envie de comme aimer ma vie.
Yeah.
Fait comme, moi, je pense que c'est un cadeau dans le sens où est-ce que, ben... Ça fait que j'ai navigué ça, puis je suis qui est-ce que je suis. Fait.
C'est très puissant aussi, être capable de dire que t'es fier de toi. Là. Moi, tu vois, c'est quelque chose que j'ai de la difficulté à dire. Puis sur lequel je travaille.
Oui, oui, oui.
Mais fait que j'admire beaucoup que tu sois capable de dire ça.
Je le dis ici, là, mais est-ce qu'on le dit tout le temps? Non. Mais ça me fait du bien de pouvoir en parler, puis genre de... Excuse-moi, je t'ai coupé la parole. De pouvoir en parler, puis de pouvoir comme... Le vocaliser.
Ouais.
Comme parce que c'est pas quelque chose que je me répète à tous les jours. Là.
Non.
C'est ça.
Puis on réalise à quel point nos pensées, Caroline, qu'il faut faire attention.
Parce que si à tous les jours je me réveillais en me disant que j'étais fier de moi, au lieu que comme. Je sais pas, là, quand je me réveille, qu'est-ce que je me dis des fois? Des trucs négatifs.
Ouais.
Mais peut-être que mon outlook sur la vie serait plus.
Ouais.
De, qu'on a, ça a plus de pouvoir qu'on pense, mais comme c'est relatif, tout ça. Mais comme. Oui, je pense que c'est powerful de dire qu'on est fier de soi-même.
Bien. Yeah. Là, tu habites à Montréal, tu travailles à Montréal.
Ouais.
La communauté est plus grande à Montréal. Comment tu vois ça à l'extérieur de Montréal?
Bien, à Alter Ego, justement, presque comme 60 % de nos questions viennent de l'extérieur de Montréal.
Oui!
Ouais,
extraordinaire.
Ouais. C'est le fun, hein?
Let's go!
Oui, puis c'est quelque chose... sur lequel, je veux dire, moi, j'ai grandi à Repentigny, là, en petite banlieue. Fait que comme, j'avais une réalité quand même proche de Montréal. J'ai pas grandi en région, rien que ça. Mais même juste le grandir en banlieue, tu te sens déjà très seul. Fait que, ouais, je pense que de plus en plus, j'aime ça. Il y a plein d'initiatives. Il y a plein de groupes en région. Comme il y a un groupe que j'aime beaucoup qui s'appelle Fierté Agricole.
Ah ouais, donc!
Je te jure, c'est un rassemblement, un organisme communautaire de plein de fermes de personnes LGBTQ+. Puis c'est beau. Là. Puis là, ils sont là à chaque année avec leur, à Pride avec leur camion, puis là, ils donnent des légumes. C'est cute, là!
Oh, c'est hot!
Oui! Ou comme plein de... Les réalités sont tellement différentes. Je veux dire, comme... C'est impossible de savoir. Puis je veux dire, les réalités sont vraiment différentes parce que t'es loin des... Parce que t'es loin des centres... des métropoles.
Ouais.
Puis aussi, comme il y a plein de différentes réalités, je pense aussi comme aux personnes autochtones, comme je connais par exemple des groupes en Gaspésie qui comme travaillent aussi à travailler avec comme à décoloniser les pratiques LGBTQ+, puis comme, pas les pratiques, mais décoloniser la pensée, tout ça, puis de comme, c'est vraiment des réalités qui sont tout autres que dans les centres urbains. Même, je veux dire, Québec-Montréal, c'est pas la même chose.
Ouais.
Mais
ça s'améliore.
Oui. Vraiment. Puis je pense qu'il y a des plus et des contres dans chaque situation. Ou est-ce que si je pense vite comme ça, ben ça arrive des fois que quand tu fais ta transition en région, que tu vas avoir un accès plus rapide parce que tu connais tout le monde.
Ouais.
Fait que genre, ça fait que c'est plus difficile d'avoir une transition comme sous le radar, parce que je veux dire, en région, tout le monde se connaît puis tout le monde en parle.
Ouais.
Fait que c'est plus difficile ça, mais le canal de rapidité médicale va être beaucoup plus rapide parce que les gens vont juste s'appeler. Tandis qu'à Montréal, c'est comme tu peux vivre ta transition seul ou avec tes proches, puis comme sans nécessairement avoir à être visible pour tout le monde, mais que ça prend des mois, genre mm-hmm. avoir accès au truc.
Wow.
Fait comme il y a des plus des comptes partout.
Yeah, absolument.
Ouais.
Absolument. C'est fascinant. Mm-hmm. C'est fascinant. Y a-tu comme un aspect qu'on entend moins parler, que t'es comme crime ça, faudrait parler de plus de ça. Y a-tu une affaire qu'on n'a peut-être pas abordé ou je sais pas?
Mais je veux dire, il y en a plein.
Ouais.
Mais vite comme ça, je dirais de comme. Bon, je pense qu'un truc que j'aimerais ça qu'on parle un peu, c'est. Qui pourrait être intéressant, mais j'ai tout craqué.
Ben oui, Colin.
Tout mon corps.
Ça m'arrive full sur eux.
Puis. Ce serait tout ce qui a rapport avec le vocabulaire, comme un truc que j'aime, yeah. un truc que j'aime dans mes ateliers ou les trucs, c'est je parle de comment on voit souvent le fait qu'il y a autant de mots puis de comme identité comme quelque chose d'épuisant, de comme négatif même, mais un truc que j'aime qu'on se rappelle en tant que société, tout ça, c'est que c'est un parcours pour se démédicaliser, ce genre de sortir de qu'est-ce que les autres nous ont mis dessus.
Ouais.
Dans le sens où est-ce que la majorité des mots trans, gay, nanana, c'est des mots qui ont été inventés par des gens qui sont pas trans ni gays.
C'est vrai?
Oui, comme par exemple, le terme hétérosexuel
ouais.
a été créé après le terme homosexuel. Parce que le terme homosexuel, c'était un diagnostic, c'était quelque chose d'étrange, tu comprends?
Oh shit!
Mais,
je savais même pas.
Mais c'est ça, genre, comme. Puis le terme hétérosexuel a été créé par. Les personnes homosexuelles pour dire, hey, ça serait le fun qu'on soit pas juste les bizarres, tu comprends?
Ouais.
Fait que tout le vocabulaire qui est en lien avec l'identité de genre, tout ça, c'est tout des mots qui sont médicalisés. Fait qu'on est comme dans un moment sociétal où est-ce qu'on crée des nouveaux mots, en fait.
Mm-hmm.
Puis l'idée, c'est de décupler, de comme multiplier les termes pour que tout le monde se sente, genre, reconnu.
Ouais.
Que tout le monde se sente bien. En soi.
Ouais.
Fait comme, au lieu de voir ça comme, ah, oh, il y a tellement de mots, ça gosse, mais de le voir comme, t'as juste à être patient, puis à être correct d'avoir tort, mais aussi de dire que c'est beau que les personnes soient capables de voir un mot, de s'associer. Parce que, il ne serait-ce qu'il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, mais tous ces mots-là, c'était des diagnostics, en fait.
Ouais. Puis là, tu parles autant des mots reliés à l'expression de genre oui. qu'à la sexualité.
Oui, on les
parce
deux.
Ça aussi, faut
les diviser.
Faut les diviser.
Oui, bien sûr.
Exact.
Ouais.
Fait que là, quand on parle de la communauté LGBTQ+, bon, là, c'est plus au niveau sexuel, ouais. relationnel, mettons.
Il y a le T dans LGBTQ+, ouais. fait que c'est vraiment...
C'est un mélange de tout ça.
C'est un mélange de tout ça. Dans le sens où est-ce que... moi, j'aime ça dire la communauté trans et non-binaire quand on parle d'identité de genre. Mais comme je te dis, on est en train de créer tous ces mots-là.
Ouais.
LGBTQ+, ou comme 2S LGBTQ+, comme c'est qu'on rajoute toujours plus d'identité pour que les gens sentent pas... Pour que les gens sentent inclus, en fait.
Ouais.
Puis... mais chaque... Je veux dire chaque terme. Comme peut-être que des fois, je parle de la communauté de la diversité sexuelle. De la diversité de genre.
Ouais.
Comme il y a plein de différents termes. Puis.
Toi, c'est. Comment t'as appris ces mots-là? Qui t'a appris ces mots-là?
Ben, c'est vraiment. C'est être. Faire partie de la communauté, c'est comme un apprentissage. C'est comme une technique qu'on fait au cégep. tu rentres là-dedans, puis comme de plus que t'es sur les internets, le plus que tu vas apprendre les différents mots, tu parles avec les gens, tu fais des erreurs, tu reconnais des mots qui te font du bien, fait que tu les appropries. Tu t'identifies ouais. à ces mots-là. Fait que genre, tu crées des mots aussi, si ça te tente. Fait ouais. que c'est vraiment... c'est communautaire. Puis je pense que c'est un truc aussi qu'il faut qu'on parle, de comment c'est pas tout le monde qui a accès à ça. Fait
ouais.
que genre, surtout que si on parle justement, on parle en région plutôt, il y a plein de gens qui vont... Parce que c'est aussi des fois très universitaire. Parce que comme, c'est tellement compliqué.
C'est quoi les mots... les plus importants, t'as l'impression qu'il faudrait qu'on mette de l'avant? T'sais, est-ce que c'est les pronoms inclusifs? Mmh. Est-ce que c'est le toast? Moi, je sais pas encore quand l'utiliser, je t'avoue, mmh. toast. C'est-tu quand je dis tous et toutes, au lieu de dire ça, je pourrais dire toast?
Ben, ça dépend de... Compliqué.
C'est ça. Ouais, mais là, on est dans la conversation. Ouais, non, on ne dit pas qu'on a raison, non, on est dans l'ouverture.
Personne qui a raison.
Non, c'est ça.
Ouais. Ben, je dirais que moi, j'utilise genre toast la gang.
OK, c'est ça. C'est
non,
cool.
Toute la gang, mais je dirais...
Toast la gang, c'est cool.
C'est cute, c'est cute.
Mais oui, c'est cute.
Même que je pense que ça marche même pas au niveau grammatical, mais c'est pas grave. Genre, je pense que moi, qu'est-ce que je trouve intéressant puis important, c'est de parler de la différence entre... identité de genre, expression de genre, comme toutes ces différentes...
Fait que identité de genre, c'est ouais. toi par rapport à toi.
Ouais, par exemple, moi, là, genre... Puis souvent, quand je donne des ateliers, je l'explique comme ça parce que je trouve que les gens peuvent plus se représenter, dans le sens que chaque personne sur la Terre a une identité de genre. Donc, toi, à ce que je pense, mais t'es un homme cis,
ouais.
un homme cisgenre. Moi, je suis un homme transgenre. Fait que, mais les deux, on a aussi une expression de genre. Tout le monde a une expression de genre.
Qu'est-ce que c'est comment j'exprime.
Exactement. Puis ça, tout le monde a ça. Tout le monde marche différemment, s'habille différemment, ses cheveux différents, parle différemment. Comme ça existe pour tout le monde. Puis je pense que quand on prend conscience de ça, ça fait qu'on sort un peu de la binarité. Puis ça fait qu'on est plus enclin à comprendre le reste.
Fait que moi, mettons, mon expression de genre mm-hmm. est quoi?
Ben c'est qu'est-ce que tu veux que ça soit, mais t'as une expression de genre peut-être qui sort un peu de la masculinité classique.
C'est ça.
Ouais.
Mais est-ce que tu penses que la masculinité classique est un peu le produit de la masculinité toxique qui fait en sorte que est-ce que c'est une manière d'exprimer de la masculinité ou t'as l'impression... Parce que moi, il y a quelqu'un qui a fait un coming out queer pour moi à un moment donné sur Internet. Puis j'étais comme, je suis-tu queer? Puis je le sais pas. Est-ce que c'est mon expression de genre? Et peut-être... Mm-hmm. Tu comprends? On dirait que je savais pas... je sais pas. Tu sais, moi, je suis un homme hétérosexuel. Mm-hmm. Je me suis toujours senti comme ça. Mm-hmm. Puis, qui a fait en sorte qu'on dirait que mon expression de genre, mm-hmm. je me suis jamais. C'est la première fois que je m'arrête à ça.
Oui. Mais je pense que. Ne serait-ce que comme te dire que. Ben, que tu remets en question la binarité des genres, puis la sévérité, tout ça. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a potentiellement tous en commun, puis qui fait que les personnes cis, peu importe, peuvent aller chercher une plus grande empathie pour les personnes trans parce que tu peux comprendre un peu plus.
On dirait que je comprends mieux ce que tu voulais dire tantôt par les ongles.
Mm-hmm.
On dirait que là, je le comprends plus.
Ouais.
Parce que, en effet, pour moi, c'était quelque chose d'assez simple à effectuer.
Mm-hmm.
Mais en effet, qu'il y a des regards qui ont changé.
Mm-hmm.
Tu sais, toi, cette semaine, je faisais un show, puis j'improvisais, là, je savais pas trop ce que je disais, puis j'étais comme, j'expliquais que j'avais une copine, puis j'étais comme, malgré le fait qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis gay, je mange une noun. puis j'étais comme, ah, je sais pas qu'est-ce qui fait que les gens vont penser ça.
Mm-hmm.
Puis il y a un bonhomme qui a juste crié, tes cheveux! Puis j'ai comme posé, j'étais comme, oh mon Dieu, là, j'ai pas assez de temps comme pour gérer tout ça.
Ouais.
Mais j'étais comme... On dirait que ça, la réflexion se poursuit avec ce qu'on dit, de faire comme... Ah, ben peut-être qu'en effet, tu sais, mon expression de genre est peut-être différente de mon identité de genre. Je pense peut-être aussi que je me suis pas posé les questions parce que mon expression de genre a toujours été acceptée chez moi. Tu sais, quand j'étais kid, je portais... Tu sais, moi, j'ai deux sœurs, fait que je portais... je pouvais porter ce que je voulais.
Mm-hmm.
Puis chez nous, c'était tout le temps...
C'était la norme, oui.
Of course.
C'était comme...
Je pense pour ça aussi que ça m'a pris du temps, des fois, être conscient de la chance que j'ai.
Mm-hmm.
Parce que chez nous, c'était accepté.
Normal, oui.
Exact, exact.
Ouais. Puis que c'est plus quand t'es sorti de ça que t'es quelqu'un de bras.
Ouais, puis de voir que, hey man, faut souligner... J'ai jamais autant utilisé le mot chance que depuis 2 ans. Le privilège, chance, comme je pourrais jamais trop le dire.
Puis
ça enlève pas mes défis, ça enlève pas.
Non, au contraire.
Mais être conscient de ça, être conscient qu'il y a des gens qui qui ont fêté, qui m'ont donné, qui m'ont permis de pouvoir m'exprimer comme je le souhaite.
Oui.
Mais je sais pas. Je te reviendrai sur l'expression de genre.
C'est intéressant. C'est intéressant de.
C'est quoi les types d'expression de genre? Ça peut être. Ça peut faire partie gars-fille, tu sais. Ouais. Mais c'est là que queer arrive.
Aussi. Ben, queer, c'est un terme, là, comme. Moi, comment j'aime l'expliquer, OK? C'est. Historiquement, j'ai fait un petit bac en histoire, là. Fait que je suis bien.
C'est vrai?
Ben, je veux dire.
C'est bien cool.
Il me reste quelques crédits. Mais on va dire que j'ai fait un bac en histoire.
T'en as plus fait un que moi.
Oui, c'est ça. un truc comme. Historiquement, dans les années 70, comme. Qu'est-ce qu'il y a la libération homosexuelle, c'était beaucoup dans le gay as in sunshine, gay as in happy. Tu comprends? C'était très. Regarde, on est dans les 70, là.
Yep.
Fait que les gens étaient comme. Genre, les gens étaient très comme. On célèbre l'identité gay dans comme le bonheur, la liberté, l'expression sexuelle. Genre, c'était très là-dedans. Puis dans les années 80, avec la crise du sida, ben. Puis la mort, puis l'intensité, puis comme la terriblisité d'été. Dans tout ce qui était terrible, genre ouais. L'intensité, ben les gens ont créé un peu. Ont commencé à dire, genre, not gay as in happy, but queer as in fuck you, genre. Parce que queer, c'est un peu comme. Queer, c'est fif en anglais, là.
Yeah.
Okay. Fait que, genre, les gens étaient comme, on est tannés qu'on soit associé au bonheur gay. Nous, qu'est-ce qu'on est, c'est qu'on réapproprie un terme qui a été utilisé contre nous, puis on le rend politique. Donc, qu'est-ce que c'est l'identité queer? C'est une identité qui est politique, en fait.
Mm.
Comme c'est pas genre. C'est pas matériel. C'est pas genre thème X. Genre, ouais. Ça n'a pas rapport. Ça, c'est vraiment plus politique que d'autres choses.
Ouais.
Donc.
Wow.
Fait que les gens vont. C'est de rejeter les normes. That's... Fait que tu peux être queer dans ton genre, dans ton orientation sexuelle. Tu peux être queer dans ton. Dans le sens où est-ce que. Quand tu dis que t'es queer, tu fais juste dire. Moi, je suis pas d'accord avec. L'hétéronormativité. Tu fais juste dire que t'as pas envie de comme donner tout expliquer. Puis que t'es juste queer parce que c'est ça. Genre, c'est ça. T'as pas besoin d'expliquer.
Ouais. Est-ce que t'as fait un bac en histoire parce que t'étais curieux d'apprendre sur ton histoire un peu?
Non,
aussi,
non. J'étais juste. C'était avant tous mes coming out. J'avais juste toujours un intérêt pour.
Ben, visiblement, t'es bon, là, parce que. Merci. T'exprimes très bien, t'expliques tout très bien ça.
C'est gentil.
Fait que là, on a identité de genre, expression de genre.
Ouais.
Et ensuite de ça, il y a sexualité.
Mais ça, c'est d'apprendre à les différencier. C'est je pense ça. Que ça, c'est un truc que. Ben, on revient à ton truc de manger une noun.
Oui.
Ben, genre, on bénéficierait tous beaucoup que tout le monde soit capable de différencier une identité de genre puis une orientation sexuelle. Genre, tout le monde bénéficierait beaucoup de pas associer que parce que ben t'as les cheveux verts que t'es gay. Genre.
Ouais.
Comme, ou que. Ou juste même, souvent on se mélange, on dit comme moi t'es trans, fait comme t'es-tu gay, genre. Mais comme ça n'a pas rapport.
Ouais,
mon identité de genre, c'est pas mon orientation sexuelle.
Yeah.
Genre, tu peux être.
Je trouve ça cool qu'on l'explique dans le sens. Je pense que notre génération, on est peut-être plus au courant.
Ouais.
Puis je pense aussi qu'il y a des gens qui des fois sont nerveux de poser des questions
100%.
Avec raison, des fois c'est tendu encore une fois généreux, je trouve très généreux de prendre le temps de décortiquer ça parce que je suis persuadé que ça aide plein de gens en ce moment
puis parce que c'est des trucs qui ont été mélangés ben, par justement les médias, la société dans le sens où est-ce que on associe dans la vie genre que si t'aimes le. Si t'es un petit garçon né avec un pénis, t'aimes le bleu, tu vas finir par aimer coucher avec des filles. Comme c'est con, là, mais genre, ça existe. Dans la société, on a cette idée-là. Puis, comme dès que tu déroges un petit peu de ça, dès que disons que t'es un homme cis, donc un homme qui a été assigné garçon à la naissance parce que t'as un pénis, mais que t'aimes le rose, ben les gens vont être comme, t'es-tu gay dans le fond. Mais on parle d'un enfant de. On parle d'un enfant de 5 ans qui aime une couleur, là. Ça n'a pas rapport avec son orientation sexuelle. Puis si tu continues à aimer le rose, mais que finalement t'es hétéro, ben les gens vont être comme ah, t'es-tu sûr que t'es hétéro? Genre, il y a tout ça, genre d'espèce de.
J'ai vécu beaucoup de ça.
Ouais.
Encore une fois, je pense que ça m'affectait moins peut-être que une personne homosexuelle pas encore sortie du placard. Parce que moi, ça venait pas. ça venait pas me toucher dans des questionnements ou un secret que j'avais l'impression mm-hmm. que plusieurs, tu sais, ou ça remettait pas en question mon identité, encore mm-hmm. une fois.
Exactement, oui.
Qui fait en sorte que me faire traiter de fif, me faire traiter de tapette, ouais. tu sais, je m'habillais de couleur, ouais. j'ai jamais arrêté, même si mm-hmm. on me traitait de nom, curieusement. Je pense un peu parce que c'était peut-être plus facile pour mm-hmm. moi de m'exprimer comme ça. Parce que chez moi, mm-hmm. c'était accepté. Puis parce que finalement, j'étais hétéro. Fait qu'on dirait qu'il y avait mm-hmm. quelque chose qui venait pas questionner. On dirait que je savais, je sais pas.
Mais quand tu te faisais insulter sur la base de ton orientation sexuelle, ben t'étais juste comme. T'étais confiant, t'étais centré en toi.
C'est ça.
Puis quand, disons que tu vis un truc similaire, mais que t'es pas certain de ton orientation sexuelle, ben ça peut venir comme.
Mais oui.
Sans branler beaucoup de choses, puis être comme, dans le fond. Fait que genre, c'est. Mais c'est important, justement, je pense que. Qu'on arrête de faire. Puis c'est normal qu'on fasse ces liens avec toutes ces choses-là parce que c'est comme ça que la société est faite. Genre. Mm-hmm. Comme dans la tête du monde, si t'es gay, t'es plus féminin. Si t'es lesbienne, t'es plus putsch. Fait comme, mais c'est pas ça. Genre.
Non, c'est
ça. Tu peux être une femme butch puis être hétéro. Tu comprends? Il y a toutes ces choses-là.
Yeah, puis l'humain est pluriel. On a plein. Mm-hmm. On peut être toutes sortes. À tous les jours, on peut être différent.
Si exactement.
Tu sais, on peut être attiré par différentes affaires. On peut avoir différentes vibes. On peut... Mm-hmm. Moi, je peux être fucking excité puis s'énerve puis danser ses tables. Mm-hmm. Puis je peux avoir des conversations fucking deep puis être super mm-hmm. smooth. Puis fait que ça revient à tout ça parce que... Est-ce que ça te gosse que les gens ont besoin d'étiqueter?
Oui, mais je pense que ça revient au besoin de contrôle. Là.
C'est ça.
Je pense que ça revient à comment on a la difficulté à accepter qu'on a du contrôle sur rien, en fait.
Mais puis, en fait, c'est ça qui est particulier, c'est que les autres qui nous étiquettent, des fois, ça gosse.
Mm-hmm.
Mais j'ai l'impression que toi... qui reprend, tu sais, c'est mm-hmm. empowering de faire, hey, moi, je suis ça. Mm-hmm. Mon identité, c'est ça.
Mm-hmm.
Il y a quelque chose d'empowering quand toi, tu choisis ça, oui. mais quand ça vient de l'autre, encore une fois, c'est tellement contre-productif.
C'est très contre-productif. Puis genre, puis c'est certain, mais c'est pas certain, mais genre, beaucoup de ces personnes-là vont associer des boîtes aux autres dans le but de se réconforter dans leur propre boîte.
Ouais.
Puis comme dans leurs propres étiquettes, dans le sens où est-ce que si une personne est vraiment à cheval ou est comme vraiment insistant sur comme ben là, si t'es hétéro, il faut que tu sois comme ça, ben c'est parce que d'une certaine manière c'est un contrôle sur sa vie, genre je sais pas, il y a quelque chose, j'ai l'impression, parce que c'est pas ma réalité, mais ouais. genre j'ai l'impression que comme il doit avoir une espèce de sentiment de, c'était de la colère par rapport à ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe là.
Ouais, c'est dur à comprendre
ouais.
pourquoi ça choque.
Puis genre, puis je pense que c'est ça, genre, si on parle de masculinité beaucoup, là, c'est quand même intense que dès que tu déroges un peu d'une masculinité comme prescrite, tout à coup les gens ils pensent que t'es gay. Ça n'a pas rapport, là.
Ouais.
Je veux dire, y a des hommes extrêmement masculins qui sont gays. Ben
oui.
Mais il y a tout ça, toute l'espèce de comme. C'est étrange. C'est étrange qu'on fasse ça.
Ouais. Mais je pense que ça part de la peur, puis en fait ça part de l'inconnu, ça part de quand ils connaissent pas ça,
mm-hmm.
ils n'ont pas été en contact avec ça, mm-hmm. qui fait en sorte que c'est comme c'est autre chose, non, tu sais,
mm-hmm.
alors que
ils ont honte d'eux-mêmes aussi, là. Il y a ça aussi. Genre, je pense qu'il y a les deux trucs, de la peur de l'inconnu, mais aussi le fait de constamment s'être soi-même, genre empêcher d'être quelque chose.
Ouais.
Je suis en train de dire que tous les homophobes sont gays, là. Je suis en train de dire que comme les personnes qui ont beaucoup de colère et de violence se sont sûrement empêchées de vivre des choses dans leur vie.
C'est sûr.
Ouais.
C'est sûr. Oui.
Ouais.
Je suis d'accord.
C'est.
Je suis d'accord. Est-ce que ça fait en sorte que t'es quelqu'un qui juge moins? T'as l'impression?
Je sais pas. Je pense que... Non. Mais je pense que ça fait que je relativise beaucoup plus.
Ouais.
Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que le cerveau juge, mais que j'ai un parcours de vie qui fait que je vais relativiser plus rapidement.
C'est ça.
Ouais.
OK.
Ouais, ouais. Toi, est-ce que tu penses que tu es une personne qui juge beaucoup?
À un moment donné, je me suis dit, il faut que j'arrête de dire que je juge pas, parce que c'est impossible, je pense. Mais je pense que je contrôle un peu comme toi, j'ai l'impression. Je pense que le jugement, c'est quelque chose qui m'affecte beaucoup, moi, personnellement. Qui fait en sorte que je suis comme, ah, je veux pas recréer ça chez les autres du tout. Je pense que je suis quelqu'un d'assez empathique aussi, qui fait en sorte que très souvent mon réflexe, ça va être de faire. Moi, je veux que, tu sais, mettons, toi qui arrives ici aujourd'hui, je vais être certain, t'es bien, tu te sens à l'aise, que tes limites sont respectées, mais je suis de même tout le temps dans la vie, c'est comme un réflexe. Fait que je pense que naturellement, les fois où j'ai jugé, c'est que là, j'ai manqué d'empathie, soit. J'ai comme oublié que j'étais comme ça. Mais des fois, il y a des gens qui nous donnent pas le goût d'être empathique.
C'est vrai. Puis je pense aussi que, comme moi dans ma vie, puis je pense que la COVID, genre, pour moi, ça... Ben, je veux dire, la COVID. Juste comme le moment pandémie globale a fait que, comme, je me rends compte que le moins bien que je me sens avec moi-même, le moins que j'ai d'empathie. Puis ça, c'est un truc que je pense beaucoup trop ces temps-ci. De serait-ce que comme je pense que de trop travailler, de pas prendre soin de moi, de comme ne pas centraliser comme mon bien-être fait que j'ai moins d'empathie pour le reste des gens. Puis comme ça, c'est un truc que comme récemment j'ai des amis qui m'ont dit comme toi plutôt qui étaient comme je te reconnais comme pas un peu là, dans le sens où est-ce que je pense que j'ai comme manqué de balance. Puis je pense que la COVID a un rapport avec ça.
Mais
parce
oui, c'est
que,
sûr.
Parce que comme je pense que je savais plus où marcher, quoi faire. Puis ce qui fait que comme je me suis surpris à manquer d'empathie. Puis genre, je me surprends à manquer d'empathie. Puis ça vient pas de... Ça vient pas de comme qui est-ce que je suis. Ça vient du fait que je prends pas soin de moi.
Ouais.
Puis je pense que comme... Je pense que non, je juge pas moins. Mais que je suis capable de me rendre compte avec l'aide d'amis puis de proches, mais aussi comme je suis capable de me rendre compte que comme ça a un effet négatif sur plein de choses qui ont rapport à moi.
Mais oui. Je sais aussi que dans le monde du sport, là, je suis vraiment pas un expert, je pense que toi non plus, là, mais fait que je pose la question, puis encore une fois, tu te sens bien à l'aise. Je sais que dans le monde du sport, ça devient une espèce de... Les personnes trans, des fois, j'ai l'impression que selon les sports, du moins de ce que j'entends, il y a certains sports qui gèrent ça mieux que d'autres. C'est quoi ton take là-dessus? Comment tu vois ça? Parce que ça peut être des micro-agressions aussi.
Bien sûr, bien
c'est
sûr.
C'est ça, là,
ouais, ouais.
Qui est touché.
Je veux dire, je suis tellement loin d'être... peut-être une personne sportive. mais je pense qu'un truc... La seule chose que je veux dire par rapport à ça, c'est comme intéressant de voir comment... C'est beaucoup plus facile pour les équipes sportives, mais pas plus facile, mais genre, on voit plus souvent des équipes sportives masculines qui vont comme accueillir des hommes trans parce que dans leur tête, genre, ils n'ont pas d'avantage. Tu comprends? Dans le sens où est-ce que je vois, il y a beaucoup de sportifs en ligne, des hommes trans, je sais pas pourquoi, mais beaucoup de nageurs. Je sais pas pourquoi je suis beaucoup de nageurs trans. Mais de voir que ça se fait parce que. Au contraire, dans le sport plus féminin, les gens vont dire que les femmes trans ont un avantage. Ce qui est comme... Ça n'a pas trop rapport. Mais genre, je pense que de comme penser à ça, ça revient aussi dans comme l'espèce de binarité de genre de comme les garçons sont forts, les filles sont faibles. Genre.
Ouais.
Fait que genre, si t'es quote-unquote genre une fille qui devient un garçon, mais t'es pas une menace pour une équipe sportive. Puis tandis que si t'es une femme trans, donc une personne assignée homme à la naissance qui comme... est une femme, ben là, les gens sont comme, mais là, genre, il y a comme une menace.
Ouais.
Fait que, je pense que ça revient encore à comme comment qu'on voit, parce que je veux dire, on va se le dire, il y a des hommes cis vraiment pas forts, il y a des femmes cis vraiment fortes. Là.
Ouais.
Fait que, genre,
ouais,
comme ça a pas rapport, là.
C'est plus au niveau des hormones, j'imagine, que les gens questionnent, mais on dirait que je l'avais ça avait jamais été exprimé comme ça. On dirait que, j'adore ça, le point que t'as amené.
Parce que c'est vrai que les hormones, oui, mais genre, je veux dire, ça a plus ou moins rapport.
Ouais, c'est ça. Genre c'est comme, ça, absolument.
Parce que, comme... Ouais, ça a vraiment plus ou moins rapport.
Ouais, je suis d'accord.
Parce que chaque personne a un level de test d'hormones différent, peu importe ton identité de genre. Chaque personne a des capacités sportives différentes. Ouais. Fait que genre, c'est comme hormones ou non, genre, c'est pas la même chose.
Ouais, ouais, ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a des trucs, est-ce qu'il y a une autre affaire que tu dis, crème ça, j'aimerais ça parler de
mais
ça.
Là, t'as... Non, mais j'aime ça répondre à tes questions.
Ouais?
Vas-y, j'aime ça répondre à des questions. En
fait. Ok, parfait. Je continue. Comment ça s'est passé? Encore une fois, dans les limites, dans tes limites, là, je veux pas. Je suis pas fan de potins du tout dans la vie, là. Même si j'en ai maudé, curieusement, là, mais oh. Bref. Comment.
Bisbee, c'est ça? Hein?
Ouais, ben.
J'étais comme. T'as pas un catchphrase, toi, en avec les potins?
Comment ça s'est passé avec. Parce que, tu sais, on a beaucoup parlé de la communauté, ouais, se sentir ouais. reçu. Comment ça s'est passé? Avec les autres personnes dans ta vie qui font pas nécessairement partie ouais. de la communauté.
Ouais, ouais. Difficile, compliqué. Dans ouais. le sens, puis c'est un truc auquel je réfléchis beaucoup, puis auquel j'ai pas trop m'exprimer parce que genre j'ai.
Ouais, mais t'as ta vie privée, puis ben, ça t'appartient. Exactement. Pis, c'est pour ça que je me. En tout cas, c'est pour ça que je retenais un peu la. Puis c'est même pas que la question, c'est. Je t'ai vraiment posé les questions que je souhaitais.
Mais je suis capable de prendre et de. Dans le sens que c'est une bonne question. Puis je pense que pour moi, c'est un apprentissage. Puis c'est aussi quelque chose de comme qui a été très difficile pour moi. Puis on parlait plutôt d'homophobie, transphobie internalisée, VS comme homophobie, transphobie. Dans le sens que mes coming out se sont mal passés au niveau genre de ma famille, de mes proches, des amis. Puis je me questionne beaucoup sur qu'est-ce que je pensais qu'il allait penser et qu'est-ce qui appartenait à qu'est-ce qu'il pensait vraiment. Dans le sens où est-ce que c'est tellement des trucs compliqués. Dans le sens où est-ce que c'est difficile à comprendre pour des parents, c'est difficile à accepter, mais aussi, veux pas, moi, en tant que personne trans qui avait tellement peur de faire mon coming out, je leur ai mis des intentions dessus que je sais même pas s'ils sont vrais ou s'ils sont faux.
Ouais, tu comprends?
Fait que, puis c'est pour ça que j'en parlerai pas beaucoup, c'est parce que je suis rendu là dans mon parcours. Où est-ce que je suis comme, qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui leur appartient? Pourquoi ça a été difficile? Je veux dire, il y a des choses qui leur appartiennent, il y a des choses qui m'appartiennent aussi.
Ouais.
Mais je pense que pour moi, c'est vraiment comme un parcours vraiment intense. Puis comme, j'arrive pas à. Ouais, je pense qu'il fallait que je me sente bien dans mon identité pour être capable de penser à ça.
Ouais.
Parce que quand j'étais dans le plus vulnérable ou le plus magané, ben c'est pas le temps où est-ce que je suis capable d'avoir, de relativiser.
Je comprends.
Puis que c'est pas le temps que j'étais capable d'être comme, oh, mais là, est-ce que je pense ça? Ou comme. Puis c'est ça qui fait que ça crée des brisures.
Ouais.
C'est que ce que j'avais besoin, puis qu'est-ce que les enfants. Puis les personnes trans en général, j'ai toujours enfant, je suis drôle. Toutes les personnes trans ont besoin de personnes gays, peu importe. C'est du support inconditionnel parce que on va tellement pas bien quand on est rendu à ce point-là que comme c'est pas nous. Là. Dans le sens que oui, c'est le plus vrai de nous, mais aussi, si on est rendu à faire notre coming out, c'est parce que ça fait un petit bout de coin, je pense.
Ouais, absolument. Est-ce que tu rêverais d'un jour où... Je me posais cette question-là, puis parce que j'en parlais avec plusieurs amis qui ont fait des coming out, puis c'est toujours... C'est des histoires qui sont tout le temps touchantes. Mm-hmm. Qu'elles se passent mal ou bien, il y a quelque chose d'émouvant en quelqu'un qui s'affirme. Puis j'ai beaucoup... j'ai souvent dit à mes amis comme, « Ah, wow, tu sais, je suis content pour toi. Est-ce que... » Puis à un moment donné, je me disais, « Ah, dans le fond, est-ce que le souhait, ce serait qu'on ait pu à faire des coming out? » Mais en même temps, là, on dirait que je me répondais moi-même en disant, « Mais il y a quelque chose de tellement important dans le fait de s'affirmer. Fait qu'est-ce que tu penses qu'est le souhait? » C'est peut-être plus dans le vocabulaire. Tu sais, moi, en tournée... Puis peut-être que je le faisais avant aussi, mais je pense qu'en tournée, c'est le moment où je suis devenu le plus conscient. Je parle beaucoup avec le public. Puis à un moment donné, je parlais avec des finissantes. Puis quand je parlais de « Ah, tu sais, est-ce que tu vas au bal avec quelqu'un? » Tu sais, si tu vas au bal avec T'sais, on dirait que là, je suis devenu super conscient de ça. Et pour moi, c'était pas un fardeau, c'était de faire, moi, ma job, en tout cas, puis après ça, chacun voit la scène comme il veut. Moi, comme humoriste, j'aime rassembler. Mm-hmm. Je veux pas diviser. Je veux rester moi, mm-hmm. mais l'idée, c'est que tout le monde puisse comprendre, puis tout le monde se sente reçu, puis... Mm-hmm. Fait que, oups, c'est dans mon vocabulaire, puis après ça, je suis devenu super conscient quand je rencontre quelqu'un, faire « Y a-tu quelqu'un dans ta vie? Mm-hmm. » Tu sais, c'est des petits wordings super simples mm-hmm. qui changent absolument tout, tu sais. Est-ce que tu penses que c'est plus en s'éduquant de ce côté-là qui va faire en sorte que... Je sais pas, là.
Mais je pense que dans un... Puis genre, je pense la même chose que toi. Dans le sens où est-ce que je pense pas que le but, c'est que les gens aient plus à faire de coming out parce que c'est important de célébrer son identité. Ouais. Mais je pense que le but, c'est que les coming out soient de moins en moins dramatiques, en fait. Là.
C'est ça.
Je pense que le but, c'est que ça soit de moins en moins intense puis que le fait de comme parler de son identité soit plus comme un drame. Là. Donc, puis genre, je pense que justement, en faisant des trucs comme ça, en prenant pas pour acquis tout le temps, en prenant pas pour acquis que la personne qui est devant toi, que tu peux deviner son orientation sexuelle, puis que tu peux deviner son identité de genre. Je pense que c'est ça qui fait qu'un moment donné, les communiards, ça va peut-être devenir obsolète, ou les communiards vont être 100% par rapport à la fierté et non pas par rapport à la peur et l'appréhension.
Ouais.
Fait que genre, il y a ça aussi.
Ouais. Ce qui serait extraordinaire, ce serait un beau monde.
Mais oui.
Ce serait vraiment un beau monde. Y a-tu. Tu parlais de. D'importance de se voir, tu sais, de se voir, de mm-hmm. pouvoir rêver. Les artistes que mm-hmm. tu admires, qui font partie de ta communauté, mm-hmm. c'est qui?
Ouf! Les artistes. Je veux dire, il y en a tellement peu, c'est ça le truc. Je dirais que j'ai vraiment été habitué de comme. De plus que mes idoles, ce soit des personnages fictifs genre, dans ma vie, mais comme aussi de comme. Je sais pas, il y a quelque chose de. On dirait que je peux même pas nommer ça, mais. Je suis souvent. Dans la vie, j'adore les musiciens parce que dans la musique, genre, il y a pas nécessairement de. Dans le sens que c'est quelque chose de comme universel. Ouais. Fait que genre, je suis quelqu'un qui a toujours beaucoup aimé. La musique, les musiciens, je veux dire, j'adore Daniel Bélanger.
Yeah.
J'adore.
Il est extraordinaire. Ouais, j'ai ça. Eu la chance de le rencontrer. C'est là où tu fais, ah, tu sais, un Daniel Bélanger, mettons, tu sais, tout le monde au Québec s'entend pour dire que, ah, ben, il est du type légendaire, là, ouais. entre guillemets. Je dirais pas ça devant lui par respect, là, mais. Puis quand tu as la chance de le rencontrer, tu réalises à quel point, c'est comme, ah, ben, il est pas légendaire pour rien.
Ouais.
C'est parce qu'il est sick, tu sais.
Ouais. Puis je dis ça parce que derrière nous, il y a un album de Daniel Bélanger.
Extraordinaire.
Mais ouais, je pense que c'est une question que j'ai de la difficulté à répondre parce que je veux dire, j'adore. Je pense à justement, c'est ça, à Safia Nolin, yeah. qui est une personne qui vit genre son orientation sexuelle haut et fort au Québec. Kate aussi le sort, que yeah. comme c'est vraiment vraiment très cool que quelque chose comme Occupation Double Fête, que tout à coup il y a une personne transféminine que les gens comme s'inspire d'eux.
Sinon, elle était très généreuse aussi.
Très généreuse,
oui. Tout comme toi, c'est. Puis je suis très reconnaissant mm-hmm. de ça, d'ailleurs, à ton égard, puis à l'égard de Kate, mm-hmm. souvent. Puis quand les gens félicitent au dé, entre guillemets, je retourne toujours ces mm-hmm. félicitations-là à Kate parce que ça y appartient entièrement.
Totalement.
Elle a fait le chemin entier elle-même. Mm-hmm. Elle s'est présentée aux auditions. Elle a été sick et c'est la raison pour laquelle elle est entrée. Mm-hmm. On n'a rien à voir dans tout ça, dans le sens. Tout lui revient, puis après ça j'ai eu la chance de faire des entrevues avec elle aussi mm-hmm. Puis elle a été d'une générosité mm-hmm. D'une vulnérabilité sans limite
mm-hmm.
Elle est vraiment extraordinaire.
Non, c'est vrai, puis je pense que toutes ces personnes-là comme font que, je pense à Pascal Drevillon aussi qui comme de plus en plus qui est une femme trans qui joue dans La Fugueuse.
Yeah.
mais
La Fugueuse.
La Fugueuse. mais je pense à plein de personnes, puis je parle juste du Québec ici, là, parce que comme c'est qu'est-ce que j'aurais eu besoin. J'aurais vraiment trippé ma vie si dans Ramdam il y avait eu une personne trans.
Ah ouais.
Tu vois, genre.
Ouais, ouais, ouais.
Fait
ouais.
comme. Je pense que, ouais. Bon, ça aurait été cool, hein, imagine.
Ça aurait été badass, là. En plus, ils ont fait combien de saisons? Il y aurait plus, là,
65.
C'était pas l'époque, malheureusement. C'est triste de croire que c'était pas l'époque. J'aime pas dire ça.
C'est vrai.
Parce que c'était l'époque, tu sais, c'était mm-hmm. la... C'est... T'es-tu heureux de vivre à cette époque-ci?
Oui, oui, oui. Mais je suis heureux de vivre à cette époque-ci. Je dois avouer que... Mais comme j'ai dit plus tôt, des fois, je suis comme, OK, ça aurait été ma vie si j'étais né un peu plus tard.
Ouais.
Puis comme, c'est con à dire parce que comme je suis vraiment jeune, mais genre, j'ai l'impression d'être né, puis comme je sais qu'on est né dans les mêmes années, genre, fait que j'ai l'impression d'être né dans un moment où est-ce que j'ai pas eu Internet dans mon adolescence, j'ai juste eu comme dans mon début de vie adulte.
Ouais.
Fait que comme j'ai réussi à me sentir, moi, au début de ma vie adulte.
T'étais-tu heureux, enfant, adolescent?
Non. Ça serait la réponse facile.
C'est...
Ouais.
T'es
ouais. Fastidieux. Je dirais que non. Je pense que quand je pense à mon adolescence, il y a clairement eu des trucs positifs, mais j'ai pas la capacité de m'en souvenir parce que le négatif prend tout le dessus. Puis ça, ma psy, elle a adoré quand je lui ai dit ça. Elle a dit, on a tellement de travail à faire.
Ouais.
Elle était comme, on va découvrir ensemble les trucs que t'as aimés.
C'est vrai?
Ouais, oui, on va faire c'est ça, cool, tranquillement, ça tranquillement. Fait que genre... fait que oui, je pense que... Pour moi, mon adolescence, mon enfance, c'était beaucoup de solitude, beaucoup de questionnements, puis genre, j'arrive pas à me souvenir des trucs positifs. Puis c'est pas parce que c'est pas arrivé, c'est parce que toute la place était prise par...
Ta grande souffrance, là?
Par la souffrance, oui.
Chris, l'identité, c'est comme la première affaire sur la liste. On parle souvent de la pyramide des besoins, là, tu sais, manger, dormir, nanana, mais comme... C'est savoir qui on est ou du moins pouvoir exprimer son identité, ça vient avant tout ça. Là.
C'est vrai. Non, c'est vrai. Puis je pense que je me demande comment ça aurait été si quand j'étais pré-ado, il y avait eu genre Instagram,
ouais.
Par exemple.
Ouais.
Genre, je me demande comment ça aurait été comment ça aurait affecté mon développement juste en lien avec mon identité de genre.
Ouais.
Mais je suis vraiment content de, je veux dire... J'ai rien à dire de plus par rapport à quand est-ce que je suis né. Je veux dire, j'ai pas faux de pouvoir là-dessus, mais je pense que comme je suis vraiment content de voir que ça avance vite et qu'il y a des trucs qui se passent.
Yeah. Ouais. Et là, qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Tu sais, comment on te suit, évidemment, sur tes réseaux sociaux, ton podcast, Alter Hero, mais est-ce que tu as des projets en tête? Est-ce qu'il y a des trucs que tu es comme, j'aimerais ça faire telle affaire?
Ben, je veux dire, j'ai plein de projets dans le sens que je veux vraiment continuer mon podcast.
Yeah.
J'ai vraiment envie aussi de... Ben, j'ai envie, puis s'il y a des gens qui entendent l'appel, j'ai vraiment envie de faire du contenu en français sur les enjeux trans. Dans le sens où est-ce que tout ce que j'ai appris par rapport aux enjeux trans et non-binaires, c'est en anglais. Puis j'ai envie de comme qu'au Québec, on ait accès à quelque chose en français.
Ouais.
Donc, je suis quelqu'un qui aime beaucoup ça, la vidéo, tout ça. J'aimerais ça faire de la vidéo. J'aimerais ça faire tout ce qui est en lien avec, justement, apprendre aux gens comme qu'est-ce que les termes, qu'est-ce que les identités. Vraiment, comme tout ce qui est par rapport à ça.
Ouais. On dirait que tu m'as rappelé puis une question que j'avais un peu plus tôt. En fait, quelque chose que tu as dit qui m'a ému dans la vidéo que tu as fait avec Urbania.
Oui.
Quand tu dis c'est pas parce que t'es un pénis que. C'était ça que tu avais dit? C'est pas parce que t'es un pénis que t'es un garçon.
Oui.
Puis j'avais vraiment. Je sais pas, ça, de la manière que tu l'as dit, tu étais venu me chercher. J'ai trouvé. C'est une phrase qui est tellement banale. Mais tellement coup de poing en même temps est tellement vrai, tu sais. Fait que ce serait cool, en effet, qu'il y ait du contenu comme ça, qu'il soit pas juste des invitations tout le temps. Puis je trouve que Urbania le fait super bien. Il y a Maj, je pense, là, qui sont fucking badass. Il y en a plein. Le plus, c'est qu'à un moment donné, je pense que c'est avec Rosemée Automne que je parlais, puis j'étais comme, Colin, on devrait faire une série de balados, comme vu que les cours d'éducation à la sexualité sont tellement pas clairs.
Oui.
I guess qu'il y a des gens qui sont super bons là, là-dedans.
Oui, oui.
Puis, fait que
pas clair, c'est la meilleure façon de le dire.
C'est ça.
Ouais.
Puis là, je me disais, tu sais, tu fais là, une couple de podcasts pour faire. Puis là, ben, tu décortiques chaque affaire. Ça pourrait être cool.
Mais il y a tellement de choses à faire. Puis, comme. Puis c'est ça, je pense qu'il y a beaucoup de pouvoir dans. Les réseaux sociaux et tout ça. Puis qu'est-ce que j'ai envie, c'est de me frayer une place, de savoir qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que j'aime faire. Puis comme
qu'est-ce que t'aimes faire?
Mais qu'est-ce que j'aime faire?
Parler aux gens.
J'aime parler aux gens
de ton expérience, j'ai l'impression.
J'adore ça. Oui, j'adore
comme
parler aux gens.
Tu es très généreux de ton je suis vraiment reconnaissant, je te remercie vraiment de ton partage parce que tu sais puis c'est pour ça que pour moi c'était super important de faire la distinction entre le tu sais le potin et la vie privée puis mm-hmm. ce qui se partage là, fait que mais je te remercie vraiment.
Mais je pense que qu'est-ce que j'aime faire c'est parler de mon expérience. C'est pour ça que le podcast, la vidéo, je trouve ça vraiment le fun, mais j'ai envie de juste plus visibiliser que qu'on existe puis que en parler puis juste j'ai envie de c'est ça faire des podcasts, en parler, échanger avec des gens, rendre plus visible puis comme juste de s'assurer que des jeunes qui se posent des questions et des moins jeunes encore une fois ben soient capables de trouver un semblant de réponse ou puissent se voir à travers moi d'une certaine manière puis ouais je pense que c'est vraiment ce que j'ai envie parce que je pense que c'est là qu'on est rendu.
Bien.
Comme, ouais.
Absolument. Mm-hmm. Ça fait combien de temps qu'on jase, Alex? On est
2h10.
Ça va être assez, je pense.
Ça va... Non, mais c'est plus. Je trouve que j'étais. J'arrête pas de le dire, mais je t'ai trouvé très généreux.
Merci.
Fait, merci vraiment d'avoir pris ce temps-là dans ta vie pour m'éduquer.
Mm-hmm.
T'es pas obligé, fait que je t'en remercie vraiment, vraiment.
Ben, ça fait un plaisir pour moi. T'es aussi très ouvert à l'écoute.
Ben, c'est. Je sais plus comment me sentir par rapport au mot allié, mais du moins, je sais que je suis vraiment profondément empathique à ce que ta communauté et toi vivez.
Mm-hmm.
Puis après ça, il y a une grande partie de moi qui fait je veux. J'ai la chance d'avoir un micro.
Mm-hmm.
Je dois incarner cette responsabilité-là en vous offrant la place mm-hmm. que vous êtes censé avoir.
Mm-hmm.
Fait que pour
c'est
moi,
une c'est, de le dire.
C'est pas un... Le cadeau est de toi, moi, pas l'inverse du tout. Fait que je te remercie vraiment. On te suit sur tes réseaux sociaux?
Oui, June.pilote.
Podcast?
C'est quoi mon genre? Sur Spotify et toutes les plateformes?
La titre?
Oui.
Alter Hero?
Alter Hero, un organisme communautaire incroyable. Allez voir aussi en ligne.
Yeah.
Notre site internet, alterhero.com.
Puis c'est pas la dernière fois qu'on se voit, June. Tu reviens quand tu veux.
Merci.
Puis j'espère qu'on aura la chance de se croiser dans des événements festifs plus tôt que tard.
Oui, j'espère aussi.
Merci vraiment.
Merci beaucoup de m'avoir invité. Puis prenez soin de tout le monde.
Yes. Merci.